Bon, comme tout le monde, je n'avais pas prévu de passer le dimanche matin, mais vous avez bien qu'il y a quelqu'un. Ce qui fait que j'ai pas préparé tout autant que j'aurais voulu. Simplement, je pense que cette comparaison entre l'Holocauste, donc, qui est un événement historique précis qui s'est passé en Allemagne, en Europe de l'Est, à l'époque de la prise du pouvoir hitlérien, des nazis, et particulièrement dans les camps de la mort, Auschwitz et tout ça, dans les années 40. Donc le meurtre de masse de millions de gens en fonction de critères de sous-humanité, c'était ça qu'on considérait, que c'est des sous-humains à cause du fait que c'était des juifs ou d'autres catégories humaines, qu'on considérait que c'était des sous-humains, et donc on décidait de les traiter comme des animaux. Donc cet holocauste est devenu et puis est resté un peu l'étalon de l'horreur, l'étalon maximum de l'horreur, comme étant l'horreur maximum que rien d'autre, comparable à rien d'autre. Et en même temps, depuis le début que je milite par rapport aux animaux, c'est une comparaison qui vient à l'esprit un peu de tout le monde, soit de nous, quand on contemple le fait que les animaux sont tués par milliards et qu'ils sont tués et maltraités avec des conditions qui sont très, très semblables, très comparables à celles du mauvais traitement des juifs et d'autres personnes pendant l'Holocauste. Donc ça vient à notre esprit, mais avant nous, je veux dire, ça venait à l'esprit de tout le monde, dans le sens qu'on faisait la comparaison en sens inverse, c'est-à-dire qu'on disait tout le temps les juifs ont été traités comme des animaux, avec une espèce de sous-entendu dans cette phrase, que c'est pas simplement qu'on a traité les juifs comme on traitait les animaux, comme de fait on traitait les animaux, mais ça veut dire les juifs ont été traités comme il est normal de traiter les animaux. Puisqu'on dit qu'ils ont été traités comme des bêtes, alors que ce ne sont pas des bêtes, mais les bêtes, ce serait normal de les traiter comme ça. Donc, je veux dire, implicitement, tout le monde admet que le traitement des animaux est semblable à celui des juifs. Par ailleurs, à partir du moment où on tient un discours antispéciste, puisque je suis antispéciste, et que ce discours antispéciste, il implique que la vie d'un animal... Et peut-être pas la même valeur, dans le sens que la question de la valeur de la vie, c'est quelque chose qui est assez difficile à préciser philosophiquement. Est-ce que la valeur de la vie de tous les êtres humains, est-ce que tous les êtres humains ont la même valeur dans un certain sens? Peut-être pas, déjà. La vie d'un animal qui n'est pas très conscient de son avenir, on peut dire, qui est destiné à vivre 3 ans, on peut dire qu'il a peut-être une valeur moindre que celle d'un être humain adulte, normalement constitué, conscient de son avenir, etc. Bon, il y a plein de critères qu'on pourrait avoir, mais en tout cas, je pense que l'antispécisme implique de considérer que la valeur de la vie des animaux est comparable, c'est-à-dire que tuer un cochon, tuer une poule, c'est quelque chose qui est du même ordre que tuer un être humain. Et par conséquent, directement, ça vient à l'esprit de nos adversaires aussi. Et très souvent, en tenant un discours antispéciste, on m'a rétorqué « Mais dans ce cas-là, ça voudrait dire que les abattoirs sont comme Auschwitz, et dans ce cas-là, ça veut dire que vous êtes en train de dénigrer, de diminuer l'importance d'Auschwitz, l'horreur d'Auschwitz, qui est une espèce de raisonnement assez tordu, quoi, parce que le discours antispéciste, il dit « La vie des animaux est très importante », on nous rétorque « Mais dans ce cas-là, elle est peut-être aussi importante que les êtres humains. Dans ce cas-là, vous devez comparer les abattoirs à Auschwitz, et dans ce cas-là, vous êtes en train de dire qu'Auschwitz, ce n'est pas important. » Alors qu'on était parti du discours inverse, qui est de dire que la vie des animaux est importante. Moi, je pense que c'est un débat auquel on peut pas répondre en disant « Non, la comparaison, faut pas la faire. » C'est pas vrai, on fait pas cette comparaison. En même temps, je pense que clairement, cette comparaison est quelque chose de délicat. Je pense que c'est quelque chose de délicat aussi, parce que je pense que historiquement, l'Holocauste, c'est pas simplement un événement qui est arrivé comme ça, une espèce de grand tremblement de terre où il y aurait 6 millions de victimes qui par hasard seraient juives. Je veux dire que ça correspond à 2000 ans d'antisémitisme, un antisémitisme qui continue à rester aujourd'hui comme une espèce de point focal de culpabilité de l'Occident. C'est-à-dire que si on accorde une espèce de valeur sacrée à l'Holocauste, c'est bien parce qu'on a le sentiment qu'il y a besoin d'y accorder une valeur sacrée, qu'il y a besoin de tout le temps répéter plus jamais ça, parce qu'on a encore dans notre culture la pulsion que ça recommence, quoi. Or, il se trouve que l'Holocauste, pour le moment, ne recommence pas, malgré le fait que l'antisémitisme, ce soit quelque chose qui n'a pas disparu en 1945. Par contre, le massacre des animaux, c'est quelque chose qui continue, qui n'a jamais cessé et qui continue. Donc là, on a l'impression aussi qu'il y a, il y a un parallèle, quoi. Il y a un parallèle dans la rémanence d'un côté de l'acte réel et de l'autre côté d'une espèce d'envie dans notre culture qui reste. Enfin bon, tout le monde n'est peut-être pas d'accord avec moi sur le fait que l'antisémitisme, c'est quelque chose qui perdure. Par ailleurs, je pense que la comparaison, elle est... Il y a beaucoup de gens qui disent la comparaison est peut-être juste, peut-être pas juste, je sais pas, mais en tout cas, faut pas la dire. Faut pas la dire parce que ça choque les gens. Je pense que si on regarde les choses du point de vue des animaux, et je pense que c'est un peu notre... je pense que c'est la chose qui est juste de faire, c'est-à-dire à partir du moment où on se rend compte que les animaux ont un point de vue, que les animaux souffrent, que les animaux désirent continuer à vivre, je pense qu'il faut regarder les choses du point de vue des animaux. Et ben, du point de vue des animaux, je veux dire, quelle est la différence? Je veux dire, c'est Isaac Bashevis Singer, donc, qui est un auteur prix Nobel de littérature, donc quelqu'un assez connu, par ailleurs, qui était juif et qui, dont une bonne partie de la famille était morte dans l'Holocauste, il était un peu obsédé par cette question et par la question des animaux. Lui était devenu végétarien à une époque, à l'époque où il était en train de fuir l'Allemagne nazie. Il est devenu végétarien et c'est lui qui a écrit la phrase donc, qui sert un petit peu de devise à cette campagne de PETA par rapport à l'Holocauste aux États-Unis, qui est du point de vue des animaux, tous les êtres humains sont des nazis. Donc qui est une phrase extrêmement forte, quoi, je veux dire, pour quelqu'un en plus qui sait ce que ça veut dire, et qui, je pense, est justement ce que les gens refusent de voir, quoi. Les gens refusent d'imaginer qu'ils puissent eux-mêmes être des nazis, qu'il puisse y avoir une atrocité telle que celle-là, une atrocité indicible, etc., qui existe et qui existe par cet acte aussi banal que de manger de la viande. Donc ça explique des réactions assez fortes par rapport à cette thématique, mais que du point de vue des animaux, effectivement, c'est un holocauste. Deuxièmement, si on s'en rend compte de ça, se dire il y a un holocauste qui est en train de se passer aujourd'hui, ou quelque chose d'équivalent à l'holocauste, mais il ne faut pas le dire, je veux dire, il faut prendre des choses au sérieux. S'il s'agissait de l'holocauste des juifs, je veux dire, ça c'est l'attitude qu'a eu Pie XII pendant la guerre. De dire il y a un holocauste, on le sait, mais il ne faut pas le dire, ça risque de vexer certains, la réaction peut être négative, vaut mieux essayer d'agir diplomatiquement avec les nazis, etc. Faut surtout pas, parce que le Vatican était vraiment au courant, enfin assez nettement au courant de ce qui se passait, mais a couvert l'affaire, n'a pas voulu que ça sache, n'a pas voulu dénoncer dans la face du monde l'existence de... d'Auschwitz et de ce qu'il s'y faisait. Bon, est-ce que nous, en disant « Ah, il y a un holocauste, mais faut pas le dire », j'ai le sentiment qu'on a la même attitude, d'une certaine façon. Alors, cette campagne de PETA, je pense qu'elle montre aussi que c'est quelque chose qu'il est possible de dire. Il y a eu plusieurs... moments qui sont arrivés jusqu'à cette campagne de bêta. Il y a eu différents livres. Moi, j'avais vu un bouquin d'un Sud-Américain qui s'appelle Kutze, qui a écrit un bouquin qui s'appelle The Lives of Animals, la vie des animaux, et qui est un tout petit bouquin, mais où cette comparaison est faite directement, mais elle est faite sous une forme littéraire, où c'est une dame qui fait des conférences et qui l'a fait, donc le livre retrace ce que dit cette dame. Et ce que dit cette dame, je veux dire, elle dit quand moi je vois des lampadaires faits en cuir, c'est des amis qui font ça, mais pour moi ça me fait le même effet que si on disait regardez le bel objet que j'ai, il est fait en peau humaine, et qu'elle dit que pour elle la vie est invivable, elle vit au milieu de nazis, et qu'en même temps c'est des nazis souriants, c'est des nazis qui sont gentils avec elle, c'est des nazis qui sont sincères et sympathiques, mais qu'elle est bien obligée de constater que tous les jours autour d'elle, elle a les odeurs d'Auschwitz, elle a les laboratoires cachés partout, exactement, et qu'elle ne veut pas le taire. Bon, il y a eu ce bouquin-là, il y a eu ensuite un livre de Charles Patterson qui est paru aux États-Unis, qui est dont la traduction va être faite ou a été faite déjà dans pas mal de langues. En français aussi, on essaye de le faire traduire. Enfin, il y a des personnes qui essayent de le faire traduire et publier, qui s'appelle
Eternal Treblinka.
Donc oui, ça c'est Eternal Treblinka. C'est un mot aussi d'Isaac Bashevis Singer qui avait dit que pour les animaux, le monde est un Eternal Treblinka. C'est-à-dire que la différence entre Treblinka et les abattoirs, c'est que les abattoirs, ça s'arrête pas. C'est un truc qui, jour après jour, il n'y a pas de fin, quoi. C'est même pas l'extermination des animaux, on les extermine en même temps, de l'autre côté, on les produit. Et donc le livre s'appelle comme ça, c'est un livre qui est surtout de description historique, qui essaye de faire un parallèle historique entre la genèse de l'Holocauste et les abattoirs, sur les méthodes de meurtre de masse qui sont développées aux États-Unis, Chicago et tout ça. Bon, des parallèles qui valent ce qu'ils valent, entre le fait que Henry Ford, qui est celui qui a donc popularisé les voitures, le système, qui a fait les premières voitures qui ont été vendues de façon populaire aux États-Unis, avec les chaînes de montage, c'est beaucoup inspiré pour ces chaînes de montage, des chaînes de démontage des animaux à Chicago, dans les abattoirs, et qu'en même temps Henry Ford était un antisémite extrêmement virulent, qui a beaucoup inspiré Hitler, que Hitler admirait beaucoup, et que les camps de la mort sont effectivement faits pour une grande part sur le modèle des abattoirs. Et je pense d'ailleurs que, c'est un parallèle qui a une valeur, qui n'est pas une valeur pour prouver quelque chose, parce que je veux dire, qui prouve pas qu'il y a une équivalence morale entre les abattoirs et Auschwitz, mais je pense que c'est intéressant de savoir que historiquement, il y a une filiation. Historiquement, il y a cette filiation-là que. Enfin, moi, ça me rappelle aussi. Le mot de je sais plus quel responsable nazi, ça devait être quelqu'un dans les trucs médicaux, qui parlait d'Auschwitz et des chambres à gaz comme d'un problème médical. Et que je crois que c'était au cours du procès d'Eichmann à Jérusalem. C'était quelqu'un qui avait dit ça, enfin un ancien nazi qui avait dit oui, c'était un problème médical. Et les juges faisaient les gros yeux, comment est-ce qu'on peut dire les chambres à gaz c'était une question médicale. Il a dit, ben oui, c'est une technique biologique pour tuer les gens, c'est un problème médical. Et en fait, j'ai réfléchi, tuer les animaux, ben, c'est des vétérinaires qui sont là pour surveiller la manière dont on tue les animaux dans les abattoirs. C'est la même logique, quoi. C'est tuer les animaux, c'est un problème vétérinaire. Auschwitz, c'était un problème médical, c'est le même état d'esprit. Et c'est vrai que ça n'établit pas un parallèle. Morale. En même temps, le livre il est intéressant aussi par le récit de beaucoup de gens qui avaient à voir avec Auschwitz, soit des rescapés d'Auschwitz, soit au contraire des gens qui avaient vécu Auschwitz du côté allemand et qui, en réaction à Auschwitz, sont devenus végétariens. Donc ces personnes-là, soit rescapées d'Auschwitz, soit des Allemands qui sont devenus végétariens sont mis à lutter contre contre les abattoirs, contre ce qu'on fait aux animaux, sur la base de effectivement que du parallèle moral cette fois-ci, c'est-à-dire de la prise de conscience du fait que qu'on est en train de faire aux animaux quelque chose qui a beaucoup à voir moralement avec ce qui a été fait aux juifs. Bon, il y a eu ça, et puis enfin, il y a donc cette campagne de PETA qui est sortie aux États-Unis, qui s'est basée sur... à la fois, je trouve qu'ils ont pris beaucoup de précautions dans la façon dont les choses sont formulées. J'ai amené... j'ai fait la connerie, justement, je ne les ai pas... Ici, mais je les mettrai à disposition de tout le monde des copies de trucs que j'ai trouvé sur le web, soit du site de PETA, où il y a le petit-fils d'Isaac Schewissinger qui défend la campagne de PETA et qui dit tout à fait, moi je considère mon grand-père, il aurait été tout à fait d'accord avec la campagne de PETA et tout à fait approprié. Enfin, ils se sont couverts par pas mal de moyens. C'est un juif dans PETA qui lance, un juif qui a perdu de sa famille dans l'Holocauste. Ils ont un discours qui est à la fois, je trouve, extrêmement fort et direct, et en même temps qui prend tout le temps la précaution de dire nous ne cherchons pas à choquer les gens inutilement, nous savons que c'est une campagne choquante, le but de ça c'est d'apprendre à partir de l'Holocauste, de faire en sorte que ça ne se reproduise pas, et de mettre ça en discussion. Ils font ça par des tournées avec des panneaux, c'est-à-dire ils vont sur des places publiques dans les villes des États-Unis avec des grands panneaux qui font cette comparaison de l'Holocauste, et par leur site web et par cette diffusion de publicité à la télévision, ça a fait les gros titres des journaux, ce truc-là, enfin les gros titres peut-être pas, mais en tout cas c'était vraiment un truc dont on parlait dans toute la presse de cette campagne de PETA. Il y a eu énormément de commentaires complètement révulsés. Il y a eu des réactions négatives de la part de l'ADL, donc qui est l'association anti-diffamation, ça s'appelle la Ligue anti-diffamation aux États-Unis, qui est un truc contre l'antisémitisme, qui serait peut-être un peu l'équivalent de la LICRA, mais qui est très actif là-bas. Et donc qui ont réagi très négativement. Et puis il y a eu d'autres réactions négatives, des réactions positives, et il y en a eu, et à mon avis, des réactions positives, il y en a eu plus que ce qui ressort quand on regarde un petit peu l'écume des choses sur Internet, où les réactions négatives se caractérisent par l'absence d'arguments, se caractérisent par la répétition sans cesse du fait que c'est le caractère unique de l'humanité qui est la base absolue de la morale. Toute morale se fonde sur le caractère unique de l'humanité. Moi, je ne pense pas que la morale se fonde sur le caractère unique des êtres humains, sur un respect unique particulier qu'on aurait envers les êtres humains. Mais je pense que, d'une certaine façon, cette campagne, elle met clairement... Enfin, les réactions négatives sont assez clairement motivées par le fait qu'on ne supporte pas que l'on compare réellement le meurtre d'êtres humains et le meurtre d'animaux. Je pense aussi qu'un truc, c'est que il y a assez peu d'accusations d'antisémitisme envers PETA. Il y a assez peu d'accusations envers PETA que PETA banaliserait particulièrement le meurtre des juifs. L'accusation est plutôt que PETA banalise la vie des êtres humains, que PETA serait anti-humain. Donc aux États-Unis, en tout cas, ce qui se joue, c'est pas une question tellement par rapport à l'antisémitisme. Alors que je crains qu'en France, ça viendrait beaucoup plus vite sur le tapis. Aux États-Unis, c'est vraiment des réactions d'indignation spéciste. Et je pense d'une certaine façon que c'est une bonne chose de les mettre, que cette campagne est une bonne chose parce qu'elle met vraiment ça en lumière. Tant qu'on tient des propos du genre théorique, ah oui, les êtres humains, les animaux non humains sont égaux moralement, les gens ils laissent couler parce qu'ils voient pas ce que ça veut dire. Ou alors, comme j'ai dit, ils font la contre-provocation en disant ah mais ça veut dire qu'Auschwitz et les abattoirs de poulets c'est pareil. Donc c'est qu'à travers des exemples concrets comme ça, et cet exemple concret qui est le plus fort peut-être, que la chose se concrétise et que les gens vraiment déclarent non, il est absolument indigne de comparer le statut moral des êtres humains et le statut moral des animaux. Et je pense qu'on a à affronter cette réaction d'indignation, en tout cas si on veut faire passer le message antispéciste. Et je pense que la campagne de PETA le fait passer, parce que ces réactions d'indignation, elles sont là au départ, mais ensuite ça deviendra plus facile d'en parler, plus facile concrètement de dire les choses, je pense, à partir du moment où cette campagne de PETA est passée par là. Bon, et puis, juste pour terminer, pour dire qu'il y a des gens qui disent c'est horrible, ça banalise l'Holocauste, il y en a d'autres là-bas qui ont la réaction inverse, qui disent cette campagne de PETA, elle fait servir l'Holocauste à quelque chose, c'est-à-dire qu'elle remet l'Holocauste dans la mémoire des gens, elle permet aux gens de se rappeler ce que c'était l'Holocauste et d'en faire un usage concret, c'est-à-dire de profiter de l'Holocauste pour nous interroger nous-mêmes sur notre propre comportement, et que c'est une bonne chose, quoi. Et cette réaction, je pense qu'elle est relativement diffuse aussi. Bon, je vais arrêter là,
Moi, j'avais une question.
Discuter. Oui.
Je voudrais que tu reprennes. J'ai vu zapper, mais une histoire de la filiation historique, ça m'intéresse, par rapport à Ford. J'ai pas compris cette histoire-là.
Henry Ford était, ça doit être au début du 20e siècle, du genre 1905-10, enfin oui, les années 20. Bon, il était à la fois un grand industriel, il a inventé, ou en tout cas perfectionné, je ne sais pas exactement, les chaînes de montage de voitures. C'est la compagnie Ford, je veux dire, c'est celle-là, quoi, celle qui fabrique les bagnoles. Et c'était la première voiture populaire, d'ailleurs un peu comme Volkswagen en Allemagne. Enfin, je dirais pas qu'il y a un rapport que la voiture serait maudite, mais je veux dire, c'est quand même lui qui a fait ça. Il s'est inspiré, alors dans le bouquin de Patterson, donc Eternal Tribinka, il y a un passage sur le développement des abattoirs de Chicago, où ça a pris des proportions, mais on hallucine quand on lit ça. Mais on hallucine parce qu'il montre à partir de petits abattoirs de quelques animaux par jour, comment petit à petit ça devient un truc où c'est des milliers d'animaux par jour qui sont tués. Mais on hallucine, mais si on pense à aujourd'hui comme c'est aujourd'hui, je veux dire, on hallucinerait encore 10 fois plus, quoi, par rapport à ce que c'était à l'époque. Mais à l'époque, donc, on transformait des zones entières de la ville en des espèces de trucs de morts mort industrielles. C'est-à-dire les animaux arrivent là, ils sont tués là, le sang coule dans les rigoles qui sont là, enfin toute une zone entière qui pue la mort, quoi, qui est la zone de la viande. Enfin, je sais pas s'il y en a qui ont été dans des abattoirs. On était allé à Lyon sur un terrain d'un abattoir. Enfin, je veux dire, c'est prenant, quoi, d'être là-dedans, de sentir cette mort qu'il y a partout, quoi. De voir les animaux qui arrivent, ce truc industriel, ça devient moins abstrait, quoi. Je sais pas comment les gens ils arrivent à travailler là-dedans, mais enfin moi ça me donnait vraiment envie de pleurer, quoi. Je veux dire, c'est un truc de cauchemar. Et là, des zones entières transformées comme ça, et c'est ça qui... ces chaînes de démontage des animaux qui est inspiré, parce que les animaux sont... passent à la chaîne, donc sont cuits à la chaîne, sont ébouillantés à la chaîne, démontés à la chaîne, et c'est ça qui a inspiré Henry Ford dans ses chaînes de montage des bagnoles. Par ailleurs, Henry Ford était... un antisémite militant à travers un journal qu'il avait, enfin il était directeur ou propriétaire d'un journal, enfin un journal du genre un quotidien, quoi, un quotidien grand public, et qui s'est mis à être le diffuseur des protocoles des sages de Sion, qui est une espèce de faux antisémite qui a été fait en 1905 ou un truc comme ça. mais qui donc a été diffusé par Henry Ford, qui le considérait comme un truc vrai, quoi. Considéré comme vraiment la preuve du grand complot juif mondial. Et Henry Ford a été, je crois qu'il a reçu de la part de Hitler la médaille, une médaille, je crois que ça devait être la plus haute distinction allemande décernable à un non-allemand. Hitler l'invitait et tout ça. Et Hitler disait qu'il était un grand admirateur d'Henry Ford. Il se trouve que Ford, au bout d'un moment, s'est rétracté. Et, enfin, je mentionne simplement par justice pour lui, c'est-à-dire qu'il a, à un certain moment, il a dit tout ce que j'ai dit, c'est des conneries, et je suis désolé pour tout le tort que j'ai fait dans le passé. Mais, c'est ça le parallèle que fait Patterson, historique.
Il s'est rétracté à quelle époque, hein?
Il s'est rétracté, je sais pas, dans les années 30, je crois. C'était avant 45, je crois. Enfin, je suis plus très sûr, mais. Et que je pense que ça montre aussi que l'antisémitisme, c'était un truc qui existait aux États-Unis, qui avait pignon sur rue aux États-Unis, et qui pouvait aller de pair avec un grand bonhomme industriel, etc. Quoi. C'est-à-dire que c'est pas que l'Allemagne qui avait une espèce de d'éruption volcanique. Impromptu d'antisémitisme qui aurait disparu après 1945, donc ça montre le caractère mondial du truc.
Oui. Pour complément d'information que tu as peut-être, mais on sait maintenant, il y a des preuves qui montrent que au niveau de l'accès au pouvoir d'Hitler et des nazis, il y a eu des gros capitaux venant des Américains, de banquiers américains, reliés, alors là, il y a de quoi se poser pas mal de questions, reliés directement à la dynastie des Rothschild.
Oui, ça c'est une autre question, j'ai entendu ça, moi je n'en comprends pas un mot, quoi.
Il y a des documents, ouais.
Faudrait voir les documents, mais je veux dire que pour moi ça fait partie des trucs qui sont dans la lignée de Thierry Messian, que le 11 septembre n'a jamais eu lieu, que des trucs comme ça qui font partie de...
Libre à chacun de penser par lui-même.
Oui, hein, non mais tout à fait, mais je pense que c'est... Enfin, pour moi, c'est du même niveau, même si c'est peut-être moins grave en soi, c'est du même niveau que les protocoles des sages de Sion. Je veux dire, c'est des documents aussi, ces protocoles, hein. Après tout. Je veux dire que c'est des preuves, mais je veux dire, il se trouve que c'est des faux, et les trucs comme quoi le 11 septembre n'a pas eu lieu, ou que c'est un complot de la Juiverie mondiale, le 11 septembre, moi, je pense plutôt que c'est l'incapacité que les gens ont à se regarder en face et à voir les événements en face et dans leur complexité qui explique qu'on essaye de prouver que les coupables sont toujours les mêmes. Enfin, bon.
Chacun peut exercer son bon sens critique comme pour toute chose et peser les choses à partir de documents. Je crois qu'on tombe toujours dans une erreur qui peut être fatale en réfutant tout de suite tout ce qui provient de sources d'informations. Voilà. Après, bon, chacun se fait sa propre idée.
Et puis les Américains s'étaient déjà fait la main sur les Albiens et savaient très bien détruire tout ce qui était...
Et on les voit à l'œuvre encore.
Tout ce qui était destruction de... Oui, toute destruction de peuples, disons, de ethniques qui sont très forts là-dedans, quoi, ça c'est clair.
La question aussi, c'est quel usage, nous, en France, il est possible de faire de cette question-là? Est-ce que c'est opportun d'en parler? Ou quelle réponse on doit avoir quand on nous interpelle là-dessus? Quand on nous dit, ah, mais pour vous, donc, c'est pareil. Quand aussi on nous dit des trucs du genre, Hitler était végétarien, je pense que c'est lié.
De toute façon, ça, il n'y a pas de raison non plus. Enfin, il y a toutes sortes de théories là-dessus.
Il y a des témoignages qui sont
pas. Ah oui,
c'est pour la santé.
C'est trop facile.
C'est Florence qui prend le tour de parole.
Je crois que c'était Pascal qui avait demandé d'abord. Et après,
Non, mais qui fait les tours? Qui doit faire les tours de parole?
Ah ben, je sais pas, si vous me désignez, je
vais faire. Non, mais je ne sais
pas. Donc, c'est à Pascal.
Je ne sais pas si c'est le moment, mais d'abord, par rapport justement à cette comparaison, ce qui me vient, c'est que les juifs, ils ont été, enfin, juifs, tziganes, etc., ont été tués par idéologie. Donc ça, c'est condamnable, enfin, apparemment, et maintenant. Les animaux sont tués pour qu'on les mange, alors que les animaux, on les a toujours tués pour les manger. Donc, je suis l'avocat du diable, mais si tu veux, c'est, ouais. C'est un peu, je me dis, on peut très bien en répondre ça. C'est qu'on peut justifier le fait qu'on tue les animaux dans un monocôte comme ça, parce que bah, y a une utilité pour les bouffes, quoi, depuis très longtemps. Alors que les juifs et les tziganes, moralement, éthiquement, c'était juste les tuer pour les tuer, quoi, pour les supprimer, pour qu'ils disparaissent de la planète. Et ça, la plupart des gens, maintenant, le condamnent. Enfin, beaucoup plus que...
Enfin, c'était un but aussi, non ? C'était quand même dans un but. C'était
ouais.
Pas gratuit.
Non, mais moi, je trouve que c'est
dans le but de disparaître. Comme question, moi, je voudrais une réponse par rapport à ce qu'elle pose comme question. Ça, je trouve que c'est la question, c'est le truc essentiel qui va nous être...
Dans la forme, c'est vrai que ça se ressemble. Enfin, non, physiquement, quand on voit la rue, ça se ressemble. Mais par contre, les buts, bah, y a des gens qui condamnent en effet l'antisémitisme maintenant, la majorité. Et par contre, le fait de manger de continuer de manger de la viande, bah, c'est beaucoup moins condamné. Donc, on ne peut pas conclure.
Bon, je crois que c'est mon tour. Donc, pour répondre d'une part à ça, moi, je pense que ça, c'est les objections qu'on a de toute façon quand on parle de végétarisme. Donc, c'est rien de plus. On y répondra de la même façon que ce qu'on répond d'habitude. Et moi, je suis vraiment entièrement d'accord pour... Enfin, moi, j'aurais voulu même proposer qu'on demande à l'État de nous fournir les documents et faire, nous, cette exposition, vraiment la faire à fond. Moi, je suis à fond partant pour le faire.
Oui, moi aussi, d'ailleurs.
Et je pense qu'on n'aura pas plus d'objections. Enfin, moi, je suis prof d'anglais et j'ai étudié avec mes élèves en classe justement un article du journal qui parlait de ça. Et j'ai fait circuler les photos de l'exposition de Pita, justement. Et les élèves m'ont sorti notamment cet argument-là, et des tas d'autres arguments auxquels on pouvait s'attendre. Et globalement, j'ai l'impression que ça n'a pas tellement porté. C'est-à-dire qu'en étudiant d'autres documents, j'avais eu plus de réponses. J'avais eu des élèves même qui m'ont dit être devenus végétariens. À la suite de ça, absolument pas. Et ils ont été plutôt choqués, indignés, etc. Donc le résultat est plutôt négatif et malgré tout, je pense quand même qu'il faut le faire. Il faut le faire parce que on sème le doute.
Voilà. Oui, bon, ben, moi, je sais qu'une fois, j'ai failli recevoir des coups de bâton parce qu'en effet, c'était sorti comme ça. J'avais dit les animaux sont en camp de concentration et puis il y avait quelqu'un qui m'avait traité d'antisémite, etc., qui avait pensé sur moi, un costaud. Moi, je m'étais tirée parce que bon, j'ai pas vraiment à recevoir du coup. Donc, je me suis dit, il faut que je prépare la chose parce que c'est vrai que ça a pu le choquer. Parce que ça m'était sorti aussi et que lui n'était pas préparé. Ceci dit, après, j'ai lu un petit peu, puis il y avait une phrase de Boris Cyrulnik sur l'Internet que j'ai retenue qui était très bien. C'est-à-dire, si je peux la citer, c'était dans son livre La naissance du sens. Il disait si un être vivant parle, on le baptise, sinon on le cuisine. On a fait les mêmes choses, on l'appelle, on le torture. On a fait la même chose avec les Aztèques, les Noirs, les Indiens, les Juifs, etc. Et moi, cette phrase, je la dis pas. Par exemple, ma collègue est camerounaise. Vraiment, on s'entend, on nous appelle même les sœurs siamoises, bizarrement. On s'entend très bien ensemble, mais j'ose pas la dire, enfin, pas trop la dire devant elle, parce que justement, donc Boris Cyrulnik, par là, veut dire que chaque fois qu'effectivement on a voulu détruire un peuple, on a dit qu'il était... Et j'ai lu aussi d'autres choses de Jean Laculture qui est pour les corridas, donc c'est pas vraiment pas mon copain, mais il avait fait un livre très bien sur les 50 Afriques, où il disait qu'il y avait des tribus qui s'appelaient nous les hommes et tous les autres étaient des animaux. J'ai lu un autre livre de Jouvental qui est un éthologue qui a fait la confession d'un primate qui dit que les Bantous appellent les pygmées de la chair à couper, quoi. Pour eux, les pygmées sont des animaux, parce qu'en plus, ils sont peut-être... Voilà, donc ça, c'est une notion qui se retrouve. Chaque fois qu'on veut détruire un peuple ou quelque chose, on dit que c'est des sous, ce ne sont pas des êtres humains, c'est des animaux, comme ça, on a tous les droits sur eux. Mais ça veut dire aussi que ces animaux, il faudrait peut-être justement les faire passer du stade animal et les reconsidérer comme des êtres sensibles, et que ça soit le mot sensible qui soit le dénominateur commun. Point, quoi.
De vite.
Je voulais rebondir sur ce que tu avais dit, en fait. En fait, c'est vrai qu'il y avait une fonction idéologique à l'élimination des juifs, particulièrement dans les camps. Et ce que tu avais dit, c'est que finalement, les animaux, il n'y avait pas ce fondement idéologique, ils étaient tués pour simple nécessité matérielle, si on peut dire. Après, on pourrait te répondre qu'il y a aussi une dimension idéologique dans le fait de tuer les animaux, puisque ça nous permet à nous, en tant qu'êtres humains, de nous identifier en tant que groupe, en les rabaissant, donc ça... etc. Mais moi, je renuancerais ce que je viens de dire là en disant que c'est vrai qu'avant avant qu'on parle, avant qu'on fasse des discours, on tuait comme n'importe quel animal. On a toujours été à nous-mêmes inscrits dans le cadre de la prédation. Donc je me demande si on peut pas nous objecter que tout ça, c'est une construction purement idéologique. Le fait de faire cette comparaison, puisque finalement, on a tué avant de nous construire en tant qu'être humain par le biais des discours, etc. Et voilà, donc c'était une. C'est le genre de peut-être de réflexion auquel moi j'aurais du mal à répondre. Est-ce que quelqu'un a éventuellement des pistes pour pouvoir explorer?
T'as du mal à répondre à ce qu'elle a.
Non, à l'objection qu'on nous ferait suite à. Tu veux,
c'est pas juste. J'ai pas compris.
L'objection qu'il vient de dire.
L'objection qu'il vient de formuler.
Oui, enfin, je voulais, par rapport à ce que disait Dominique, ajouter que c'est pas que par rapport à l'Holocauste que les gens réagissent. Moi, je me rappelle avoir un mec qui m'a volé dans les plumes quand j'ai fait la comparaison à l'époque du Rwanda, que le Rwanda c'était horrible, on était en train de tuer 1 million de Tutsis, que moi, j'ai fait la comparaison avec ce qu'on fait aux animaux et que là c'était vraiment horrible que je diminuais la valeur de la vie des êtres humains. Et puis bon, pareil, à un certain moment, on avait fait la comparaison entre l'esclavage des Noirs et celui des animaux, et qu'on nous disait, ah mais vous considérez que les Noirs seraient des animaux, quoi. Ce qui est tout à fait vrai, que les Noirs, comme n'importe qui, sont des animaux. Mais je veux dire que... C'est en fait, je pense que à la base, il y a le fait de comparer les êtres humains et les animaux. C'est pas spécifiquement un problème juif, même si à chaque fois on va se faire l'avocat du groupe qu'on serait censé être en train de mépriser. C'est-à-dire, c'était un bon blanc qui en avait pas grand-chose à faire, qui était socialiste et donc qui avait voté pour Mitterrand, qui était celui qui justement avait trempé beaucoup dans les massacres du Rwanda, c'est un socialiste qui me reprochait d'être raciste envers les Noirs parce que je faisais la comparaison avec les abattoirs, alors que lui en plus il bouffait les animaux, quoi. Donc il était en train de se défendre lui-même en utilisant les Noirs comme prétexte, quoi. Les gens qui nous disent ah vous c'est horrible vous banalisez l'Holocauste, très souvent c'est des gens qui en ont pas grand chose à foutre de l'Holocauste. Et qui utilisent là les juifs comme prétexte pour nous interdire de mettre sur le même pied ce que faisaient les nazis et ce qu'eux sont en train de faire, quoi. En train de faire aux animaux. Bon, mais je voulais répondre par rapport à cette question qu'a soulevé Pascal. C'est un truc qu'on retrouve énormément dans les indignations qu'on trouve sur le web, dans les réponses, que ça n'a rien à voir, les juifs et les animaux. Enfin, parce que les juifs c'était idéologique et que les animaux c'est juste pour se nourrir. Mais il faut voir que l'Holocauste, on le voit avec nos yeux d'aujourd'hui, avec les yeux de l'époque, dans l'esprit des nazis, c'était les juifs ne valent rien, on ne les tue pas par haine, on les tue simplement parce que c'est des bouches inutiles, parce que c'est parce qu'ils nous encombrent, parce que voilà, quoi. Ça, c'était un discours, mais le discours était complexe, parce qu'en même temps, il est vrai qu'il y avait une haine des juifs, c'est-à-dire que les nazis, en même temps, faisaient ça de façon très administrative. Ça ressort dans le procès d'Eichmann, je veux dire, pour qui c'était une tâche administrative comme une autre. Il allait d'ailleurs souvent voir des juifs, voir les chefs de la communauté juive, pour négocier avec eux, pour se démerder petit à petit, de les envoyer tous à Auschwitz, sans que jamais ils réagissent, quoi. C'est-à-dire qu'il les fréquentait tous les jours, certainement très poli avec eux, il n'avait pas de haine particulière, et pendant son procès, ben...
Il était même philosémique, il avait appris à parler...
Ah oui.
Oui, enfin, c'était comme ça, mais c'était une tâche administrative. Et puis en même temps, c'est clair que dans le nazisme, il y avait une énorme haine, que même quand l'Allemagne était en train de perdre la guerre, eh ben, il y avait une priorité au train qui portait les juifs à Auschwitz par rapport au train qui portait le matériel militaire, quoi. C'est-à-dire que c'était vraiment presque le but d'Hitler, c'était plus de tuer tous les juifs que de gagner la guerre, quoi. À un certain moment, c'est clair que c'était mélangé. Et puis les juifs, on s'en servait bien aussi, quoi. Je veux dire, on cherchait justement à les banaliser. C'est-à-dire, on cherchait à en faire, à faire que ça ne soit pas des objets de haine, parce que montrer que les juifs sont des objets de haine, c'était encore leur donner, leur faire trop d'honneur. Par contre, prendre les juifs et en faire du savon, ou en faire des lampadaires, ça c'était vraiment considéré comme du matériel, quoi, un truc neutre. Donc dans la volonté de dire qu'il n'y a pas de haine, en soi il y a aussi une part idéologique dans cette banalisation. Et je pense qu'avec les animaux c'est la même chose. Le fait de dire que les trains étaient prioritaires pour Auschwitz par rapport à gagner la guerre, moi je ferai la comparaison avec le fait que qu'on dit que les animaux c'est pour nous nourrir. Alors que je pense qu'objectivement, n'importe quel médecin le sait, et même aujourd'hui ça commence à être un truc officiel, les gens bouffent trop de viande par rapport à ce qui serait bon pour leur propre santé. C'est-à-dire que, et par ailleurs, la faim dans le monde est causée en grande partie par la viande, et par ailleurs, économiquement, c'est pas rentable. Enfin, je veux dire, on aurait, même en mettant de côté la question des animaux, de la sensibilité des animaux, on aurait des raisons. C'est des raisons que je refuse de mettre en avant, parce que je considère que, de toute façon, je ne dirais pas que l'Allemagne n'aurait pas dû faire Auschwitz parce que ce n'était pas économiquement logique. Auschwitz, c'est condamnable parce que c'était Auschwitz pour les Juifs, parce que c'était à cause de ce qu'on a fait pour les Juifs. Mais on peut quand même constater que, rationnellement, du point de vue des Allemands, ce n'était pas quelque chose de rationnellement rentable. Si on le regarde d'un point de vue froid et égoïste de la part des Allemands, d'un point de vue froid et égoïste de la part des êtres humains, c'est pas rentable, c'est pas une bonne idée de bouffer la viande, en tout cas de la bouffer en quantité telle qu'on la bouffe. Pourtant, les gens la bouffent. Et je pense que les gens la bouffent parce que c'est un symbole de notre humanité. C'est un symbole, le fait de bouffer la viande, c'est notre richesse, c'est notre domination sur la nature, c'est le goût du meurtre aussi. Moi, je pense que clairement, on a envie tous les jours d'avoir ce goût du meurtre dans la bouche. Et que dans 200 ans, si la viande a été abolie, eh ben, ce sont là des choses qui se verront clairement, qui se verront aussi clairement que le fait que les nazis avaient une haine des juifs, quoi. Maintenant, c'est clair que c'est un argument qui est difficile à faire passer aux gens. C'est difficile de répondre ça aux gens. Mais je pense que ça invalide pas l'argument. Et par ailleurs, il y a quand même à remarquer que c'est un argument qui est un argument sur les circonstances historiques, sur les motivations et tout ça. Mais que ça n'invalide en rien le fait que, du point de vue des animaux, ce sont des choses identiques, quoi. Et que ça, c'est quand même le point central à dire.
Est-ce que le problème, ce ne serait pas justement le mot animal? Parce que, en fait, il y a des éléphants, il y a des girafes, il y a des poulpes, il y a des poissons, enfin, même le mot poisson, d'ailleurs, c'est un peu. C'est pas le mot qu'il faudrait. Et peut-être qu'il faudrait qu'on supprime ce mot animal du vocabulaire, peut-être pour simplement, par exemple, être sensible ou une désignation de ce genre. Parce que dans le mot animal, il y a quand même le fait de faire un groupe, ça suppose le mot animal en lui-même, le concept d'animal en lui-même, suppose que l'humain est à part. Le mot animal en lui-même suppose aussi, ça vient de anima, qui veut dire, je crois, mouvement animé, quoi, mouvement. Donc ça suppose que c'est un mouvement sans cohérence, quoi.
Non, parce que on parle de l'animal, l'animus, de façon noble, tu vois.
Ouais, mais justement...
C'est l'âme, c'est pareil.
Autant, je veux dire, il y aurait un travail tellement difficile à faire pour que le mot animal ne soit plus péjoratif, que autant le changer et autant parler d'être sensible, par exemple. Ou alors, ne pas parler d'être sensible, mais parler d'éléphants, de girafes, de plein d'êtres différents, qui ont leur spécifique. Un éléphant, c'est un truc comme ça. Apprenez à connaître l'éléphant et vous verrez que c'est une catégorie tout à fait spécifique. C'est pas, ils sont tous pareils, sauf qu'ils changeraient plus ou moins de d'aspect physique.
Claire. Moi, j'avais plusieurs choses à dire. Mais... D'abord, je voulais savoir, David, est-ce que les associations juives ont attaqué PITA en Amérique ou pas? Est-ce qu'il y a eu des plaintes pour diffamation ou des choses comme ça? D'accord. Il n'y a rien eu, les associations juives n'ont pas réagi.
Il ne peut pas y avoir. En France, il y aurait des problèmes. Ouais. Il pourrait y avoir des problèmes légaux, mais aux États-Unis, non.
Non, mais ils ont réagi. Ils ont réagi violemment, mais ils n'ont pas réagi juridiquement.
Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Est-ce qu'il y avait eu.
Non, non. Il y a eu le fait que il y a le mémorial de l'Holocauste de Washington ou de New York, ou je sais pas quoi. Enfin, il y avait quelqu'un qui voulait parler, peut-être. Mais...
Oui,
d'accord. Il y a le mémorial de l'Holocauste parce que Peter a pris des photos du mémorial de l'Holocauste en leur demandant la permission, mais en disant nous voudrions avoir le droit d'utiliser ces photos pour des expositions contre d'autres massacres. Sans préciser massacre d'animaux. Et le mémorial a dit oui. Et quand ils ont su que c'est des massacres d'animaux, ils ont fait des communiqués, c'est horrible, on retire notre autorisation, mais ils l'avaient donnée et ils ne pouvaient plus la retirer. Ah, okay. C'est la seule réaction juridique, mais elle n'est pas.
Il y a aussi eu des juifs qui font partie des droits, de la lutte pour les droits des animaux en Amérique qui se sont opposés à cette campagne. Hein. Donc enfin tout ça pour dire que moi en tant que juive, pour moi c'est compliqué. Je comprends ce parallèle, mais en même temps, surtout juive en France, je ne sais pas, vous n'avez pas l'air de vous rendre compte que la situation juive en France est en train d'exploser. Je veux dire qu'on est beaucoup, beaucoup de juifs de notre communauté sont en train de partir vers Israël, on se sent en danger. Moi-même j'ai été attaquée. Donc en tant que juive, hein, je me suis rendu compte de ça. Enfin, j'ai pas envie de m'attarder là-dessus. Donc. Pour moi, cette campagne, autant aux États-Unis, je peux la comprendre, en France, ce serait difficile pour moi. Même si je la soutiens, ce serait difficile pour moi, dans le contexte actuel d'un fort antisémitisme en France, ce serait difficile pour moi de...
Il y a des voix juives qui soutiennent, hein, clairement.
Ouais.
Il y a Chai, par exemple, qui est une grosse association israélienne qui soutient. Je crois qu'il y en a d'autres, des associations israéliennes.
Mais j'ai envie de la soutenir, c'est très très dur cette vidéo que tu montres, mais je ne sais pas comment vous expliquer, pour moi ce serait dans le contexte actuel d'antisémitisme qui explose, je ne sais pas si ce serait bien le moment, tu vois, si on était dans un contexte calme vis-à-vis de la communauté juive, ce n'est pas le cas en France.
Oui, je comprends.
Tu vois ce que je veux dire?
Oui.
Ça n'est pas le cas. Je veux dire, on est en danger, la communauté juive est en danger en France.
Oui, mais est-ce que cette campagne la mettrait plus en danger?
Non, non, au contraire, parce qu'on recevait encore en plus la dénonciation de... Bah oui, parce que quand on
rencontre... D'autre part, j'ai pas fini, je voulais savoir, tu m'expliques plus les trains prioritaires, j'ai pas compris ça, David, ce que tu as dit, les trains prioritaires Auschwitz...
Par rapport à la guerre, à gagner la guerre.
Oui, c'est quoi ça?
Bah, c'est un fait historique, c'est-à-dire que pendant les derniers mois de la guerre, où l'Allemagne était en train de perdre sur tous les fronts, et qu'il fallait envoyer des renforts, du matériel ou je ne sais pas quoi sur les fronts, et ben, les convois en direction d'Auschwitz étaient prioritaires. C'est-à-dire que pour les autorités allemandes, il était plus important de tuer le maximum de juifs avant de perdre la guerre, puisqu'apparemment, enfin, c'était probable qu'ils allaient perdre la guerre déjà pour eux, plutôt que de renforcer les fronts. Quoi.
C'est bon, Claire?
Oui, c'est bon. 2 minutes. Oui, je voulais ajouter une phrase qui m'avait frappée dans le site des grands sages, le projet des grands sages. Il commence, enfin, dans les premières lignes, il y a écrit en très gros deux mots, c'est « nous, les autres ». Et je pense que c'est le grand problème de l'humanité, etc. Il y a nous, il y a les autres sont moins bien que nous, on les maltraite. Quand elle a mis une fois, en fait, donc ça revient un peu dans la cause animale. Et bon, c'est un petit peu aussi par rapport à ces paroles de Cyrulnik que j'ai citées, il y a toujours des clans, des luttes anti-clans et des luttes anti-espèces et des luttes anti-racistes et tout ça, ça permet tout. C'est-à-dire même, je vois parmi les professions, moi j'étais longtemps dans un milieu qui était totalement informatique, j'étais dedans, ah j'étais avec eux, maintenant je suis dans un milieu qui est plutôt médical, ah ben moi je suis en dehors. Je veux dire, il y a toujours, dès qu'il y a une différence, l'être humain essaie de prendre la domination, si c'est lui qui se trouve le plus fort. Donc c'est quelque chose qui est récurrent et qui est toujours comme ça. Donc c'est dans l'être humain, quoi, de trouver toujours moins bien que lui. Donc là, c'est pour ça qu'on mange les animaux et que malgré que ça nous fait du mal par la santé, comme ça, on les garde loin de nous. Il faut toujours qu'il y ait un pays qui soit notre ennemi, comme ça, c'est le bouc émissaire, quoi, c'est l'histoire du bouc émissaire.
Moi, il me semblait quand même un truc bien particulier avec le Holocauste, parce que il y a vraiment des réactions qui sont facilement violentes quand on fait le rapport avec Auschwitz. Il n'y a pas, si on parle du Rwanda, même si toi tu as déjà eu des réactions d'opposition, ou qu'il n'y a pas, si on parle, moi ça m'est déjà arrivé de parler par exemple du génocide de Cambodge, ou tout comme ça. Mais bon, c'est plus lointain pour les gens. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi autre chose, c'est qu'il y a une symbolique particulière qui est liée à l'Holocauste. Hein. Que les nos démocraties actuelles, elles se sont donné une légitimité comme par opposition à la dictature et par rapport au nazisme. Et que c'est une sorte de légitimité qui se fonde sur l'humanisme. C'est un peu l'humanité qui a triomphé de la bête immonde. Hitler, il a été élevé au rang de diable, c'est-à-dire de mal absolu. Et c'est vraiment la bestialité dans l'homme, c'est un peu comme ça. Et les alliés, ils se sont positionnés un peu comme ceux qui réalisent l'humanité dans l'homme, un peu avec la démocratie. Tout ça. Et j'ai vraiment l'impression que l'Holocauste, c'est un peu le symbole de. Un symbole qui joue sur ces histoires d'humanité et animalité. Et
le mot même, d'ailleurs.
Holocauste, oui.
Pourquoi tu dis le mot même ?
Holocauste, ça veut dire c'est les sacrifices où on brûle un animal entièrement. C'est ça. Voilà.
Et je ne sais pas comment ça s'articule exactement. Je ne sais pas comment l'analyser, mais j'ai l'impression que quand on fait le rapprochement abattoir Auschwitz, que ça rentre en ligne de compte et que les gens réagissent aussi là-dessus. Parce que le fait de remettre en question les abattoirs, je pense que c'est aussi une remise en question de notre définition de nous-mêmes comme humains. Je pense qu'on se définit comme humains par opposition, par contraste avec les animaux. Un peu de la même façon que les groupes dominants se définissent en référence et en opposition avec les groupes dominés. Enfin, je ne sais pas, les hommes par rapport aux femmes, des trucs comme ça, les blancs racistes par rapport aux noirs, etc. Enfin, où à chaque fois, c'est des valeurs qui s'opposent. Les humains, ils sont libres, les animaux sont déterminés, ils sont instinctifs, les humains, ils sont intelligents, les animaux sont bêtes, etc. Enfin, ça marche comme ça, et la définition de l'humanité dans notre société, c'est complètement une définition qui est fondée sur l'opposition point par point avec l'animalité. Enfin, c'est deux termes, une sorte de même médaille, c'est deux faces, une sorte de même médaille, deux pôles d'un même ensemble, humanité et animalité, c'est des choses qui marchent ensemble, quoi, qui se définissent mutuellement.
C'est quelque chose, parce que ça me sert comme ça. En fait, c'est peut-être qu'en nous, on a toujours cet archaïsme de faire des sacrifices, soit humains, soit animaux, qui reviennent sous d'autres formes, des formes beaucoup plus édulcorées, mais qui sont aussi fortes. L'être humain, il faut qu'il fasse un sacrifice comme il se faisait dans les époques antiques, que ce soit du peuple, etc. Il se sent bien, je ne sais pas pourquoi, il a ça dans la peau. Et il le fait sous différentes formes. Alors là, c'est le sacrifice animal dans les cages de batterie.
Ça a peut-être un rapport, hein, mais moi, ce que je voulais dire, c'est que je pense que notre identité d'humain, c'est beaucoup une identité qui se définit contre les animaux.
Contre quelque chose.
Et que le fait de manger des animaux, c'est un symbole fondamental un peu de notre identité d'humain. Quelque part, on se donne pleinement toute notre valeur d'humain en niant pleinement toute valeur aux animaux. Et le fait de les manger, c'est une façon très très forte de leur donner toute valeur.
Ça nous donne une valeur à nous.
Et si le fait de manger de la viande, les abattoirs, et ben, ça a réellement cette signification symbolique, sociale-là, alors c'est peut-être pas étonnant aussi que l'association abattoir-holocauste ça fasse un mélange assez détonnant, quoi. Mais je ne sais pas exactement comment l'analyser, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des liens un peu à fouiller, des correspondances à fouiller sur ces deux trucs-là.
David.
En fait, ce que je voulais dire, moi, c'est qu'apparemment, la comparaison tient, mais on dirait que les choses s'opposent dans les caractéristiques de chaque procédé. C'est-à-dire, d'une part, l'exclusion des juifs pour l'identité aryenne, et d'autre part, ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire la dignité humaine par rapport au fait de rabaisser les animaux. Alors j'ai noté quelques trucs, par exemple, sous le régime nazi, il y avait on détestait les juifs, alors que dans notre société, quoi qu'on dise, hein, on les aime pas. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais lu de bouquins d'enfants où ils m'ont montré des abattoirs, c'est bien de mettre. Je pense que d'ailleurs, tout ce que nous, on peut ressentir de positif par rapport aux animaux, elle a été créée par cette société. Je pense pas qu'on ait des exceptions. Le fait que nous, on ait pris conscience que la société leur faisait du mal, ne remet pas en question le fait que fondamentalement, je pense que tous les gens aiment autant que nous des animaux. Parce que bandit, parce que etc. Bon. Il y a d'autres petites différences comme ça. Par exemple, le but des nazis, c'était, comme tu l'as décrit tout à l'heure, Catherine, de faire disparaître les juifs. Nous, le but, c'est qu'il y ait toujours des animaux à manger. Je sais pas, quand vous militez, en général, moi, quand je dis... quand il n'y aura plus d'abattoir, il n'y aura plus de vaches, les gens sont choqués. Quoi, il n'y aura plus de vaches? Mais quand vous êtes dégueulasse, comment on peut faire ça? Il y a d'autres petits trucs un peu plus anecdotiques par rapport le fait que les juifs étaient aussi désécrés parce qu'ils représentaient la culture et que les nazis se mettaient dans une perspective un peu naturaliste. Bon, c'est un peu compliqué ce que je suis expliqué. Alors que en fait, nous, on mange de la viande sur le fondement de la nature, par exemple. C'est-à-dire que la prédation, etc., et comme les animaux se mangent entre eux. Donc on dirait que c'est...
C'est pas une chance, c'est...
Comment ? Non, parce que les... Oui, d'accord, c'est vrai. C'est une ressemblance, d'accord. Mais il y a une petite nuance, enfin bref. Et donc, voilà quoi, c'est... J'ai envie que moi, j'aimerais qu'on se mette du point de vue des gens. On était, bon. Enfin moi, je suis pas né végétalien. Parce que même si nous, on est tous d'accord ici pour faire cette comparaison et... Est-ce que ce serait pas bien de creuser plus en avant les résistances qu'il y aura pour justement faire l'avocat du cœur comme tu l'as fait, pour justement voir jusqu'où ça tient, le tester un petit peu plus, quoi. Pas simplement être d'accord, mais parce que vous en pensez. Par exemple, le truc de tout à l'heure que j'ai dit, quoi, qu'est-ce qu'on répond aux gens qui nous disent que tout ce qu'on dit, c'est une construction artificielle, quoi. C'est-à-dire que le fait de faire cette comparaison, c'est purement artificiel, ça se fait a posteriori par rapport à un processus historique, puisqu'on mangeait les animaux avant de se constituer en tant qu'humain. Quand on était des singes, on mangeait des hommes préhistoriques, on les mangeait déjà, les animaux, et aucun de... Je pense pas que ces gens-là se disaient on va être des humains, on va être dignes, on va être...
Alors,
là, c'est un autre débat...
C'est mon tour.
Absolument.
Je voulais dire que moi je suis bien d'accord pour dire que l'homme se définit par des différents animaux, etc. Mais ça m'agace un peu quand j'entends l'idée que tu as énoncée tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on mange pour assurer notre supériorité. Mais c'est moi, non, on mange parce qu'on a l'habitude de manger ça depuis toujours, parce que ça s'est fait comme ça historiquement, et puis c'est tout. Et peut-être même que c'est vrai, mais ce que tu disais. Mais en fait, c'est une supposition, on ne peut pas l'affirmer.
Non, il y a quand même beaucoup de choses qui vont dans ce
sens. Je trouve que c'est séduisant intellectuellement, mais que c'est un peu gratuit quand même.
Même moi, j'ai une collègue qui me dit
Oui, c'est à Sébastien.
Il y a quelqu'un qui il y a aussi Hélène qui est arrivée.
D'accord.
Hélène, Dominique. Dominique Hélène.
Moi, je ne vais pas répondre à ça. Non, moi, c'est être court, c'était pour par rapport au fait que l'hôpital, ils avaient pris des précautions et ils avaient cherché en fait à donner caution par rapport à des juifs sur leur campagne. Mais j'ai l'impression que ça va plus loin que ça, c'est-à-dire que c'est pas simplement comme le Front National qui dit on a notre arabe, notre juif, etc. J'ai l'impression que les questions qui ont été apportées, ça a été des vraies questions sur le, plus sur le fond, en fait, sur une, le fait peut-être que la religion juive avait quelque chose, avait un discours sur les animaux qui pouvait tout à fait se relier au végétarisme ou au respect de la vie animale. Pas plus tôt que ce matin sur France Culture en venant ici, il y a une émission, donc je pense que je connais pas, mais je suis tombé sur une émission. Je pense que ça doit être une émission d'expression aujourd'hui. Et il parlait de deux choses. D'une part, alors un événement, je ne sais pas à quelle. Je ne sais pas à quelle pratique religieuse juive ça faisait référence, mais il parlait aussi de tout, où on ne devait pas porter de cuir à ce moment-là, parce que c'était la peau d'un animal par rapport à la création. La peau d'un animal mort comporté, et bon, c'était comme on fait un jeûne à un moment donné. Enfin, il y avait quand même cette idée-là, mais quelque chose de beaucoup plus fort qui m'a fait complètement halluciner. Il parlait de la construction du troisième temple, et où il disait que cette construction du troisième temple se ferait sur la base du. Impliquerait ce qu'il appelait un amour gratuit, mais sur la base du végétarisme. Explicitement ce matin sur France Culture, c'est-à-dire que la construction du troisième temple, c'était des juifs qui parlaient à l'émission en France sur France Culture, cette construction du troisième temple impliquerait ou se ferait fondamentalement de concert avec une société végétarienne. Donc il me semble que il y a sur ce parallèle aussi, je pense qu'il y a des voies. De religieux juifs, etc., qui à mon avis sont plus qu'une caution, mais aussi dans Israël il y a des organisations végétariennes, etc., qui peut y avoir des passerelles aussi par rapport à des organisations juives sur une approche de la considération de la vie.
Et le troisième temple, il va être construit bientôt?
Je connais pas assez en fait, je sais pas si ça correspond à une prophétie, si ça correspond il y a la destruction du deuxième temple, enfin, je suis pas assez calé, mais j'ai entendu ça, moi, je sais pas.
Pascal. Moi je voulais rebondir sur ce que tu as dit, Dominique, tout à l'heure, que l'homme a besoin de sacrifice, que ça c'est rémanent, enfin, que ça revient toujours. Et je pense que. Au niveau de l'animisme, il y a une conscience
de
l'animisme, de la religion.
Oui,
la pratique animiste par rapport à l'autre. Là, il y a une conscience du sacrifice quand on tue un animal pour le manger. Et que par contre, cette conscience du sacrifice en Occident, avec l'industrie de l'élevage, elle est complètement disparue. C'est un problème.
Que justement, c'est une autre forme. Parce que l'Occident est très fort pour justement faire des choses aussi. Par exemple, aussi pour reprendre la couture, moi ça m'avait bien marqué, au Bénin, je crois que les rois dans les 50 Afriques, excuse-moi de faire les propos publics, ça m'avait bien frappé parce que on désignait un roi à la naissance et puis on lui disait dans 50 ans tu seras la tête coupée. Nous, on coupait les têtes parce que c'était pour le peuple, pour la révolution. On cache toujours les choses, alors qu'il y a des pays où c'est clair et net, et nous, ça revient exactement au même, sauf que c'est caché. Moi, en lisant ce livre, j'ai eu beaucoup de révélations, c'est un mot un peu spécial, mais beaucoup de choses que les Africains disaient clair et net, et nous, on les faisait d'une façon bien dissimulée, mais que ça revenait exactement au même. Et je me suis toujours dit, tiens, c'est bizarre, nous, on cache les choses, mais on fait exactement pareil.
Non, s'il y avait la notion de sacrifice telle qu'elle existe.
On parle pas de sacrifice, mais on en fait. Et on les fait en les cachant, c'est tout.
Non, c'est pas les sacrifices.
Et moi je sais que justement.
C'est tuer les
bêtes. Ben oui, si, c'est des sacrifices. Si on tue les bêtes en les mangeant, ça veut dire implicitement qu'ils sont moins bien que nous. On retourne la chose. On dit c'est parce qu'on a besoin de les manger. Et en fait, c'est parce qu'on veut dire qu'ils sont moins bien que nous. C'est tout.
J'en fais la lettre.
Et ce que je voudrais apporter deux points de réflexion. D'une part, pour moi, l'Holocauste peut être entre autres aussi fondé sur une, pour certains, sur une notion d'un dieu vengeur, ou relié au paganisme avec cette croyance antique, pour apaiser la colère des dieux, pour obtenir un certain commerce avec les dieux ou le dieu. il s'agit de sacrifier et d'offrir en holocauste un nombre incalculable de bêtes. À ce propos, on sait très bien qu'au niveau de l'Ancien Testament, il y a eu une récupération faite au niveau de la caste des prêtres de l'époque, et puis même à travers les siècles, il y a eu des rajouts qui ont complètement déformé et accentué plus cette notion d'un dieu vengeur qui réclamait en fait son tribut. Et en échange, il pouvait accorder le pouvoir à une certaine élite. Le deuxième point, c'est peut-être de réfléchir un peu plus profondément sur la notion, tout ce qui peut être lié derrière à travers le locus, une notion par exemple de racisme, en l'étendant au sens large, de se dire peut-être que c'est simplement un point de réflexion, chacun sans s'en rendre compte peut-être peut participer indirectement et porte une co-responsabilité, parce que dans la vie de tous les jours, dans les relations que nous avons, ou que ça soit dans le quotidien, dans notre famille, avec les enfants, à la place de travail, nous avons tous des difficultés pour accepter la différence de l'autre, dans sa manière de penser et de vivre. Et juste le point, c'est peut-être de se poser la question et de se dire, est-ce que quelque part, il n'y aurait pas une part de co-responsabilité? Il ne s'agit pas après de tomber dans ce piège de culpabilité, mais simplement de se poser vis-à-vis de soi-même, avec lucidité et honnêteté avec soi-même, et de se poser cette question, et libre à chacun de se répondre à lui-même, en définitive. Voilà, c'était tout.
Claire. Oui, juste, enfin, pour dire que je trouve ça dommage de ne pas comprendre, c'est vraiment, pour moi, c'est la clé, comme dit Yves et David, le fait de consommer de la viande, c'est vraiment la clé de voûte de la domination humaine sur l'animal. Si on ne comprend pas ça, pour moi, c'est la clé de...
Est-ce que c'est dans le but d'assurer la domination ou parce qu'on considère...
Tant qu'on continuera de les bouffer, on continuera de les maltraiter. À partir du moment où on les bouffe, on pourra faire tout ce qu'on veut. À partir du moment où on s'octroie le droit de bouffer les animaux, on peut faire tout ce qu'on veut avec les animaux. C'est vraiment la clé de voûte. C'est pour ça que le végétalisme, c'est le combat essentiel. D'ailleurs, je voulais dire, en Israël, j'ai cet article, je peux le prêter ou en faire des photocopies. Il y a eu une grande polémique l'année dernière sur le foie gras. Il y a eu un député israélien qui a déposé une demande d'abolition du foie gras à la Knesset, parce que c'est cruel. Il y a des rabbins qui ont soutenu et qui ont même été plus loin en disant qu'il n'y a pas que le foie gras qui est cruel. Ça a réveillé aussi la question du végétarisme. Il y a des vétérinaires qui ont dit que toutes les formes d'élevage d'animaux pour la consommation humaine sont cruelles. Donc c'est une question essentielle, apparemment, la question de bien traiter les animaux dans le judaïsme. En tout cas, en Israël, c'est assez présent. Que je voulais dire par rapport à la campagne plus tard, je relèverai la main par rapport à la campagne plus tard.
Alors, finalement, je me suis un petit peu exprimée tout à l'heure, mais c'est toujours parce que moi, comme j'ai reçu un milieu dans ma société, tout le monde sait que je suis pour la cause animale, etc. Donc, quelquefois, j'ai des discussions un peu dures avec les uns et les autres. Et j'ai une collègue qui dit que, justement, quand je lui dis que je suis végétalienne, qui me dit, mais les animaux sont dans notre service, c'est Dieu qui nous les a donnés. Si on les mange, il faut leur couper la tête, il faut quand même les respecter, dire merci, je te coupe la tête. Et donc, elle mélange totalement, justement, la domination qu'on a sur l'animal au fait de les manger. Pour elle, ça lui semble normal, on les domine, donc on peut les manger. Et moi, je dis, elle les mange parce qu'elle veut les dominer, en fait. Et que si elle n'avait pas cette domination, elle se sentirait sans référence, sans but, elle se sentirait mal dans sa vie. Le fait de pouvoir dominer sur une espèce, d'ailleurs, elle est un petit peu raciste aussi, alors qu'il y a beaucoup de gens de tous les pays là où je travaille, et c'est... Elle dit qu'on ne peut pas s'empêcher de dire qu'il y a des êtres qui sont mieux que les autres. Évidemment, les êtres qui sont mieux que les autres, c'est elle, européenne, il n'y a pas son point. C'est clair. Et elle raisonne comme ça, elle pense que c'est naturel, et je peux essayer de discuter avec... C'est pas la peine de discuter avec elle, c'est une croyance très forte qu'elle a. Et qui fait qu'elle se sent bien à sa peau, peut-être. Si elle n'avait pas cette croyance, elle se sentirait très mal.
Claire, tu as retrouvé ton idée, tu voulais... Oui, par rapport à la campagne PITA, je me disais... Si jamais on devait la relier en France actuellement Pour moi, ça ne me semble pas opportun actuellement, mais en même temps, pourquoi pas, mais ne pas parler seulement de l'Holocauste, mais aussi parler des Rwandais, dire le monde est un éternel Treblinka, le monde est un éternel Rwanda pour les animaux, le monde est un éternel... Mais pas focaliser sur l'Holocauste, mais sur tous les massacres humains. Donc, dans ce cas-là, ça me semblerait plus audible. En tout cas, personnellement, ça me semblerait relié à tous les massacres humains et dire que tous les massacres animaux se valent. Ce sont des massacres d'animaux. Et enfin, pour moi, ce serait plus audible quoi, de relier ça à tous les massacres humains.
Hélène. Oui, non, je voulais juste dire que ce qui semble délicat, c'est de finalement à l'homme, dans ses histoires, en comparant l'Holocauste des animaux et l'Holocauste des Juifs ou d'autres Holocaustes, bon, ce qui semble peut-être délicat, c'est finalement de reconnaître ce qu'on dit, là, cette forme de domination qu'il a toujours, qu'il veut toujours avoir sur des êtres, enfin, qu'il considère inférieurs, mais des êtres qui sont peut-être, qui n'ont peut-être pas la parole, ou qui sont en faiblesse, qui n'ont pas le pouvoir, ou tout ça. Donc, c'est de reconnaître ça et de reconnaître que l'homme, il a le mal en lui aussi, et qu'il peut appliquer la cruauté aussi bien à un semblable direct, c'est-à-dire de la même race à un homme ou à un autre être vivant, n'importe lequel. Donc c'est ça un petit peu, et je veux dire, il n'y a pas à discuter là-dessus. C'est pas seulement quand on dit, on parle d'Holocauste des animaux, c'est pas seulement pour les animaux c'est pas seulement les animaux qu'on défend, c'est contre la cruauté humaine, contre les hommes qui ont l'orgueil de se croire supérieur à tout. Et je veux dire, ça, en nous, on l'a toujours eu, quelque part. Et c'est pareil, voilà.
Et Montaigne dit la couardise, mère de la cruauté. Alors là, il y a aussi beaucoup à réfléchir là-dessus.
Oui. Alors, Denis.
Oui, moi, je suis assez d'accord là-dessus. C'est-à-dire que je pense que l'Occident, notamment, a basé toutes ses valeurs culturelles et morales sur le masque de la réalité. C'est-à-dire de se. En fait, quand on regarde les valeurs culturelles, et hier on l'a bien vu sur le débat sur la corrida, on s'aperçoit que les soi-disant valeurs culturelles qu'on met en avant, c'est des valeurs en fait qui permettent à l'homme des massacres tranquilles d'animaux ou de n'importe quoi, du reste, et y compris de ses propres congénères, puisque les humains, on le voit bien aussi dans l'expérimentation. Sur la vivisection et l'expérimentation humaine, elle se reporte des animaux aux humains progressivement. Ce qui fait que l'Occident, bon, il s'est donné ses valeurs pour justement poursuivre toujours ce même but, c'est-à-dire martyriser l'autre, avoir un comportement agresseur et prédateur vis-à-vis des animaux et des êtres humains. Et donc, par exemple aussi, si on prend le bio, ça paraît comme justement le bio, ce qui est naturel. Quand on dit bio, c'est par définition, pour les gens, ce qui est naturel. C'est-à-dire qu'on va élever l'animal justement correctement, mais pour le manger de façon correcte. Etc. Donc on retrouve toujours la même échelle de valeur, c'est-à-dire que si on y met les formes, et c'est aussi le débat qu'on avait hier soir, si on y met les formes, eh ben, finalement on peut manger les animaux puisqu'ils ont été élevés correctement, etc., etc. Et en fait, on retrouve justement toutes les valeurs qu'on se donne à soi-même et que nous-mêmes on a intégrées pendant des siècles et des siècles, et qu'il faut maintenant éplucher dans l'autre sens, décortiquer petit à petit dans l'autre sens. Et ça, je crois qu'en prenant toutes nos valeurs culturelles et en les vraiment disséquant de ce point de vue-là, je crois qu'il y aurait beaucoup de choses à trouver aussi.
On va faire un dictionnaire des valeurs culturelles.
Comme vous voulez. Je suis vraiment d'accord avec ce que dit Seb par rapport à l'utilisation que fait Péta des voix juives, que c'est pas effectivement, ah vous voyez, on a N juifs avec nous, mais les juifs en question prennent tous la parole pour dire et répéter que c'est parce que ils ont l'expérience, enfin, aujourd'hui plus tellement directement, mais ils ont eu l'expérience de l'Holocauste, que dans leur famille, qu'ils se sentent motivés pour lutter contre le massacre des animaux. C'est-à-dire que qu'en tant que motivation, le parallèle, ils le font tout de suite, quoi. C'est-à-dire, c'est ce que disait Isaac Bashevis-Singer, quoi, qu'il était obsédé par le fait de, par le meurtre des animaux, à partir de ce qui s'est passé en Allemagne, et que, effectivement, qu'ils mettent en relief, de façon systématique, aussi, la présence dans la religion juive, que ce soit des gens croyants ou pas, hein, mais je veux dire que, je pense que les religions ont un effet bien au-delà des personnes qui y croient. Et je pense que dans la religion juive, il y a une structure qui est... l'hostilité envers les animaux n'est pas du tout aussi clairement structurée que dans le christianisme, dans le catholicisme, où c'est un fondement, je dirais de la religion... Que la séparation entre les humains et les animaux, je veux dire dans les écrits de Paul et autres, je veux dire ça ressort extrêmement clairement que le christianisme, je pense pour des raisons structurelles, le christianisme étant fondé sur la croyance en Jésus-Christ, les animaux ne peuvent pas croire en Jésus-Christ. Le judaïsme étant fondé sur des préceptes à observer suivant les différentes catégories, les juifs doivent faire ceci, les non-juifs doivent faire ont pas les mêmes obligations, les animaux n'ont pas les mêmes obligations. Il n'y a pas une frontière absolue entre les humains et les animaux, même si cette frontière elle est quand même marquée de façon répétée par différents trucs. Mais disons que c'est quand même pas le, il n'y a pas cet abîme qu'il y a dans la religion chrétienne, et qu'effectivement chez les juifs il y a des trucs qui disent bon ben le samedi, le Shabbat, tu le respecteras, et puis les animaux qui sont dans ta ferme respecteront le Shabbat aussi. Je veux dire, ce qui veut dire que les animaux, d'une certaine façon, sont appelés à participer au même truc, aux mêmes règles, que les êtres humains ne sont pas placés sur un plan absolument différent. Et c'est vrai que, bon, en Israël, par exemple, c'est un des pays au monde où il y a le plus de végétariens, etc. C'est aussi le deuxième producteur au monde de foie gras. Comme quoi, les choses ne sont pas...
plus pour longtemps.
Ah ben, ce serait bien, mais bon, en tout cas, les choses sont pas en noir et blanc, mais c'est vrai que cette tradition-là existe, et que je pense que dans les commentaires que je vois sur le web, ben, des voix juives, il y en a quand même pas mal qui s'expriment en faveur du truc, et qu'il y en a d'autant plus si on se dit que ça doit être des gens qui ont du mal à s'exprimer, quoi. Je veux dire que dans le concert assourdissant des condamnations comme quoi c'est horrible, horrible, je veux dire, je pense que des gens qui pensent que c'est vrai, que Peter a raison, sont plus nombreux que les gens qui le disent. Et puis aussi, par rapport à... Oui, je vais revenir aussi sur l'argument de David, du truc du caractère historique, que puisque les animaux se mangent entre eux, et puisque nous, nos ancêtres mangeaient les animaux sans y penser, ça ne serait pas idéologique. Je veux dire, à la limite, on peut dire aussi, puisque on peut considérer effectivement que ce que font les chiens et les chats, c'est pas idéologique, encore que c'est pas si évident que ça. Je veux dire, quand un chat n'aurait pas l'idée de manger un autre chat, mais qu'il va manger les souris, c'est qu'il a des catégories dans la tête. Que autre chat, c'est une catégorie, c'est grosso modo la catégorie des personnes. Correspond à la catégorie des personnes qu'on a dans notre tête, les souris, c'est la catégorie des proies. Et les chats, quand ils sont élevés avec des souris dès la naissance, ils considèrent les souris comme des personnes. Donc ils n'auraient pas l'idée de les bouffer. Donc ce genre de catégorie que nous on considère comme idéologique, bon ben ça existe aussi chez les animaux. Et que ces catégories, par exemple mâles-femelles, ça existe chez les animaux. La discrimination entre les mâles et les femelles. C'est quelque chose, je veux dire, chez les grands singes, c'est clair que ça existe, il y a des rôles différents. Oui, mais bon, les bonobos aussi, un minimum, mais je veux dire que c'est quelque chose qui se retrouve tout plein dans la nature, et à ce compte-là, il faudrait dire que le sexisme, le patriarcat, ça n'a rien d'idéologique chez l'espèce humaine.
Oui, mais
le meurtre lui-même, le meurtre ça existe depuis toujours.
Ou alors que les animaux sont idéologiques comme nous.
Bah, d'une certaine façon, il n'y a pas, je pense que cette frontière idéologique, non idéologique, nature-culture, elle a été beaucoup surfaite, quoi.
Enfin, pour parler, c'est ta passion.
Oui, c'est vite fait, juste pour renforcer ce que tu as dit, que la chrétienté et le catholicisme avaient vraiment placé l'homme au sommet de la création depuis 2000 ans, et que c'est difficile de... Même avec Darwin, qui a prouvé que de l'homme au singe, enfin, qu'il y avait toute une évolution, ça reste quand même vraiment ancré, quoi. C'est ce que tu disais.
Voilà, donc pour ramener la religion chrétienne et la religion juive ensemble, en quelque sorte, moi je n'avais jamais pu, il y a très longtemps que je ne mets pas les pieds dans une église, la seule fois que je suis allée, c'était cette année. Et quel était le serment, enfin, pas les évangiles, mais le serment, c'était le sacrifice d'Abraham. Donc, le sacrifice d'Abraham qui commence à tuer son fils puisque Dieu lui a demandé, etc. Et puis tout d'un coup, alors moi je ne me rappelais plus du tout du texte, il voit un bélier, il y a un bélier qui est emmêlé dans un buisson. Et puis Dieu lui dit, allez, laisse ton fils. Prends le bélier et puis tue-le. Alors Abraham a été soulagé, on le comprend, parce que c'était quand même son fils, et on a tué le bélier. Ben moi, je ne me suis pas empêchée de crier dans l'église, et je lui ai dit, vous ne croyez pas que le bélier aime la vie aussi? Alors mon ami qui m'avait convié, parce que c'était l'anniversaire de sa, enfin, la communion de sa fille, et qui avait tous ses amis, tais-toi, je dis, bon, d'ailleurs, je me suis exprimée, je me tais. Mais j'étais suffoquée que dans une église, au XXe siècle, au XXIe siècle, puisque c'est ça, on considère encore que le sacrifice d'un animal soit quelque chose de merveilleux. Vraiment, ça m'a choquée. Et voilà. Mais c'est pour dire que c'était aussi bien l'une, les deux religions qui étaient là et qui étaient incriminées dans le fait d'aller, bon, l'homme il a le droit à la vie, l'animal n'y a pas le droit. Quoi. Pour ça, c'était clair et net. Enfin, moi, ça m'a beaucoup marquée. Et...
Claire. Oui, c'est marrant par rapport à... Tout de suite, j'ai envie de rebondir par rapport à ça. C'est qu'il y a Abraham Segal, c'est un cinéaste, il a fait un film sur... Ce sacrifice, justement. J'ai été voir son film, il était passé au cinéma, à ici. Et donc, on voit carrément le bélier se faire tuer. Et alors après, il y avait un débat. Et le cinéaste, il était en plus lecteur à la bibliothèque où je travaillais. Et avant de voir son film, donc je savais qu'il avait fait ce film-là. Et je me suis dit, peut-être que les animaux, ça a l'air d'être un type ouvert, on va essayer de le brancher. Donc, j'avais sur moi des papiers de bisection, donc je lui avais donné. Et il m'avait dit, ah non, je ne peux pas voir ça, je ne veux pas. Bon. Après, je vois le film, je vois carrément le sacrifice du bœuf en direct. Je me suis dit, il est culotté. Il n'a pas voulu mes papiers sur la vie. Et il a filmé le meurtre d'un bélier en direct. Je me suis dit, il est quand même culotté, ce cinéaste. Et il se trouve qu'il était dans la salle. Et donc moi, j'ai réagi, j'ai dit, je trouve ça insensé, ce crime du bélier en direct. Mais je n'ai pas su bien m'exprimer. Et il y a une dame qui a rebondi, qui a dit oui, en plus il y avait les enfants à côté. Et je me suis dit, elle est en train de parler que ça la heurte parce qu'il y a des enfants à côté. Et moi, bon, bref. Et à la fin, donc on dit que c'était un progrès. Le film s'est conclu, c'était un progrès que c'est le bélier qui a été tué au lieu de l'homme. Et il y a quelqu'un qui s'est retourné vers moi et qui m'a dit, il faudra encore 2000 ans pour que ce soit une herbe qui soit tuée et pas un animal, quoi.
Et puis après, donc, lui,
il avait compris le message que je voulais faire passer, que j'ai mal fait passer. Mais enfin, il y en a un qui a compris quand même.
C'est déjà bien.
Et ce que je voulais dire par rapport encore à la campagne PITA, si à vous, je vous dis mes hésitations, n'empêche qu'avec les Juifs, les gens de ma communauté, j'ai toujours été claire que pour moi, c'était un abattoir, un camp de concentration. J'ai toujours soutenu ce parallèle, quoi. Avec les Juifs, j'ai toujours soutenu ce parallèle en faveur des animaux. Mais avec vous, les non-Juifs, je vous dis que parfois, ça, j'ai toujours en moi, même si avec les Juifs, je suis claire, quoi, par rapport à ça.
La parole est à Yves. Je remplace mon intendement.
Parce qu'il me semble qu'effectivement les deux questions qu'il y a à se poser par rapport à la comparaison abattoir Auschwitz, enfin c'est les deux, on les a abordées, mais on n'a pas vraiment affronté ça clairement. C'est est-ce que ça peut nuire à la communauté juive, cette comparaison? Est-ce que réellement ça peut augmenter le danger, l'antisémitisme, enfin le faire ressurgir ou lui donner prétexte ou quelque chose comme ça? Et l'autre question, est-ce que ça peut être utile à la question animale? Il me semble que c'est ces deux questions qui sont les plus, qui sont, dont il faut débattre là, je pense.
Oui, tout à fait.
Qui a la réponse?
En fait, je voulais revenir sur ce qu'avait dit David. Sa réponse, je la trouve assez satisfaisante et ça me fait réfléchir à certaines choses. Quand tu parles en fait, quand tu dis que les idéologies sont présentes avant le discours, en fait, d'une certaine manière, c'est ça?
Oui.
Non. Et en fait, bon, ce qu'on peut dire, c'est que finalement, tu parlais des rapports hommes-femmes, etc. C'est des contraintes matérielles au départ qui ont dû, si on cherche vraiment l'explication, bon, je ne suis pas historien, donc je vais m'y attarder, mais avec vraiment des pincettes. Je peux imaginer qu'il y a une répartition des tâches qui s'est faite, on ne sait pas trop comment, et que l'idéologie est née de cette répartition des tâches, par exemple. Bon. De même pour les animaux, les humains étaient faibles, et dans un milieu dur, ils ont été plus ou moins, on peut imaginer, contraints à chasser les animaux, enfin les agresser, quoi. Moi, je me dis donc aujourd'hui, peut-être que finalement, si les gens ont du mal à renoncer à toute cette idéologie qui s'est bâtie à la base sur des contraintes matérielles, c'est peut-être parce qu'on a du mal aussi, on est complexé, on a une sorte de difficulté à admettre que l'humanité a assis définitivement en fait sa supériorité sur les animaux. Quoi. Alors, on avait été habitué peut-être et c'est peut-être inscrit un peu dans notre patrimoine génétique, j'en sais rien. On avait été habitué pendant des siècles, en fait, être au même niveau qu'eux, quoi. Je sais pas, c'est une petite réflexion comme ça, c'est pas très construit, pas très intéressant, mais enfin, c'est
ça. On a été remis sur toute terre.
Oui, si.
Non, mais c'est vrai. Il n'y a plus d'intervenants prévus.
Si.
Ah, bon.
J'avais une question, non. C'est pour revenir sur ce qu'il disait Yves, et puis sur la question de la comparaison. C'est-à-dire, quand on fait une comparaison. En général, elle se fait à plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'on essaie de mettre des caractéristiques d'une certaine situation et dire que ces caractéristiques-là, on peut les retrouver dans une autre situation. Ce qui ne veut pas dire que tout ce qui est attaché à une situation, on le retrouve dans l'autre situation. Même quand on parle d'un meurtre et d'un autre meurtre d'être humain, on peut comparer ces deux meurtres, mais ce n'est pas forcément la même chose quand on compare... un massacre de la population et l'Holocauste, on peut se trouver 10 000 raisons de ne pas faire la comparaison parce que le meurtre n'a pas été fait de la même façon, parce que peut-être des familles ou des gens qui avaient des liens affectifs ont été séparés et que dans un autre massacre, toute la famille est passée. Enfin, il y a plein de choses qui sont de la comparaison et qu'on peut donc nous retourner quand on fait cette comparaison avec l'Holocauste en allant chercher. Oui, mais ce qui se passe avec les animaux, c'est pas pareil que l'Holocauste, parce que l'idéologie, parce que ceci ou parce que cela. Ce qu'il y a dans l'utilisation de cette comparaison, elle peut se faire à plusieurs niveaux, mais dans la campagne de Tuta ou dans mon avis, comme c'est utilisé, c'est dans le fait qu'on est associé à l'Holocauste dans l'histoire, on associe à l'Holocauste dans l'histoire un moment tragique, grave, et à réfléchir et à essayer de ne pas reproduire, ne pas reproduire exactement l'Holocauste, mais pas reproduire un événement qui peut avoir cette gravité-là. Et quand on fait la comparaison avec la question animale, j'ai l'impression que c'est bien à ce niveau-là qu'on fait cette comparaison. C'est-à-dire qu'on considère que ce qui se passe avec les animaux dans la question de la consommation de chair, notamment, c'est quelque chose pour qui devrait être considéré comme aussi grave que ce que c'est que l'Holocauste. Effectivement, si on fouille, on peut dire que la question de la consommation est plus grave que l'Holocauste parce qu'elle représente plus de victimes. On peut dire qu'elle ressemble parce que c'est aussi du meurtre. On peut dire qu'elle est moins grave parce que la souffrance des gens qui sont restés indemnes de l'Holocauste ont souffert plus que les animaux qui vont rester parce que les relations sociales entre les animaux ne sont pas du même ordre que peuvent l'être entre les êtres humains. On peut imaginer plein de choses. C'est-à-dire qu'on peut, sur certains niveaux, dire c'est plus grave, d'autres niveaux c'est moins grave. Ce qui reste, à mon avis, dans l'idée de cette campagne et cette comparaison, c'est qu'on considère que cette question animale est aussi importante à considérer et aussi qu'elle touche un massacre du moins, on n'est plus capable à un moment donné de grader en quantité, etc., mais au niveau de la qualité, au niveau de l'essence même de ce que c'est que le low cost, de ce que c'est que la consommation de la vente, du point de vue des victimes, on peut considérer qu'on a atteint des degrés qu'on n'est plus tellement capable après de quantifier ou de comparer plus loin que ça. De la même façon qu'un meurtre, que quelqu'un à la chaise électrique ou quelqu'un qui va mourir enterré pendant 3 jours, ou je sais pas, on a enterré les vaches au moment de la vache folle dans les charniers sans qu'elles aient été tuées. C'est difficile. Bon, la comparaison, on la fait jamais, elle n'est jamais absolue. La comparaison, elle est toujours dans l'idée de la chose, et pas à la lettre des comparaisons matérielles. Même de la quantification de la souffrance qui à un moment donné ne pouvait pas quantifier, de toute façon, analysable à un très niveau.
Moi, oui, je voulais revenir sur le côté plus pratique de la chose, qu'est-ce qu'on en fait, pas forcément pour décider ici d'en faire quelque chose de précis, mais simplement que cette campagne de pétage, j'ai été frappé par le fait qu'elle a été très bien réfléchie. Je pense qu'il faut que ce serait bien de... Enfin, l'avantage de ça, c'est que d'un coup, la chose sort et sous une forme très bien réfléchie, sous une forme qui a le plus de chances de faire comprendre aux gens ce qu'on veut dire par là, et pas les fantasmes du genre qu'on considère qu'un juif, que les juifs sont dépouillés ou je sais pas quoi, je pense qu'en France il faudrait la réfléchir, y compris en tenant compte de la spécificité de la France, qui est ce que disait Claire par rapport à ça, sans espérer qu'on va avoir tout le monde qui va nous dire « Ah mais oui, on n'y avait pas pensé, c'est super ce que vous dites », y compris, c'est clair que faire un truc comme ça, c'est aller à l'encontre de 50 000 condamnations, qu'il faut avoir un minimum une nerf solide pour y faire face, mais que, je dirais que, qu'en même temps que la campagne de PETA, elle est très bien réfléchie, très, très posé, que les choses sont dites avec beaucoup de, je dirais, de sérénité. Je trouve ça frappant dans la façon dont ils disent les choses, quoi. Je veux dire, au milieu d'un torrent d'insultes plus scatologiques les unes que les autres, ben ils répondent en regardant leur cadre, en disant nous cherchons à augmenter la compassion que nous avons pour tous les êtres qui souffrent, quels qu'ils soient, et d'utiliser le low-cost comme point pour... Enfin bon, j'ai les textes en anglais, j'étais con de ne pas les amener là, mais je vous les montrerai. Mais voilà, que ça leur permet vraiment d'une certaine façon de vider leur sac par rapport à ça, quoi. Que ça soit plus un truc qu'on a peur qu'on nous le reproche, quoi. Parce que j'ai l'impression que tout le temps on a peur qu'on va nous reprocher de comparer les abattoirs aux camps de concentration, alors qu'en même temps, on pense que c'est une comparaison juste, mais on n'ose pas le dire, etc., etc. Une fois que c'est sorti, ça permet de dire, oui, on l'a dit, et c'est une comparaison qui a une valeur jusqu'à un certain point, et que ça a une valeur, oui, par rapport à ce que tu disais. C'est évident, comparer deux trucs, c'est jamais dire exactement la même chose, mais je pense que le point vraiment central de cette comparaison, c'est du point de vue des animaux. Si vous étiez un animal, est-ce que cette comparaison vous paraîtrait valable, quoi? Je pense que la réponse, on ne peut pas dire autre chose que oui, quoi. C'est,
Moi, je trouve qu'il faudrait arriver à clarifier si ça peut présenter un danger pour la communauté juive, ce type de comparaison. Et moi, je ne suis pas du tout convaincu, mais justement, toi, Claire, tu as une idée de... De quelle façon ça pourrait être un danger pour la communauté juive?
Je pense que ça pourrait pas être un danger pour la communauté juive, mais ça ne serait pas audible par la communauté juive dans le contexte actuel d'antisémitisme en France. Si la situation était calme pour nous les juifs,
je pense que ça pourrait être plus audible. Mais dans la situation actuelle, moi j'écoute Radio J tous les jours, bon, même si je ne vais jamais à la synagogue, je prends le pouls de la communauté juive régulièrement. Et, ah bon ?
La comparaison, je l'ai faite presque explicitement quand je suis passé sur Radio J.
Ah non, moi je l'ai pas entendu ta comparaison.
Et bien pourtant, il y est et j'ai pas eu de réaction.
T'as pas prononcé le mot holocauste.
Non, j'ai dit que les images qu'on voyait, qu'on avait vues sur à l'époque de la vache folle de monceaux de cadavres, ça rappelait aux gens des choses. Clairement, enfin, je sais plus exactement comment je l'ai dit, mais je veux dire, c'était assez explicite. Enfin, c'était pas explicite, mais je veux dire que, en écoutant ça, c'était clair de quoi je parlais, quoi. Oui. Et je pense pas que ça va faire que l'année prochaine, on pourra pas passer sur Radio J.
Avec cette campagne-là?
Non, mais si on lance la campagne, c'est sûr qu'il y aura des, ça sera plus controversé, parce que ça sera encore plus explicite. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas inaudible.
Moi, en tant que pour moi, si. En ce moment, dans l'état actuel des choses, pour moi, ce ne sera pas audible par la communauté.
Truc que tu m'as envoyé, là, qui est passé dans l'actualité juive, je trouve que c'est un truc, je me serais attendu à un truc 10 fois pire. Simplement, ça raconte ce qui s'est passé. Ça cite l'ADL et ce que dit l'ADL en condamnant cette campagne, qui est encore une condamnation que je trouve minimum modérée, quoi, par rapport à d'autres trucs que j'ai vus ailleurs. Ça cite cette condamnation, et ça cite Isaac Bashevis-Singer, ça cite Matt Prescott, qui est celui qui est responsable, donc qui a sa famille perdue dans l'Holocauste. Je veux dire, ça donne les deux aspects du truc. Et juste en titre en haut, c'est marqué « choquant ». Bon, ben oui, c'est choquant, ça c'est clair, c'est indéniable. Mais...
Je peux me tromper, hein. C'est mon point de vue. Maintenant, je peux carrément me tromper, ça c'est sûr, hein. Mais bon...
Moi je voudrais intervenir juste pour dire, est-ce qu'on pourrait ouvrir les portes quitte à mettre des choses devant pour pas que des chiens sortent ou une table renversée ou quoi que ce soit, parce qu'on va étouffer dans la journée si on commence par aérer maintenant.
Oui.
Est-ce qu'on peut ouvrir ça là aussi, vous pensez, ou est-ce qu'il va y avoir trop de bruit de voiture?
Celle-là, il y aura une voiture, mais il y a des chiens.
Enfin, au moins celle-ci, comme ça, il y a pas de l'air.
Non, mais laisse-la, tu peux la déchirer.
Mais ouais. Le fait que ce soit pas très audible par la communauté juive, ça ne me semble pas nécessairement un mal très grand. C'est plutôt si les gens se sentent persécutés ou des choses comme ça, c'est plus gênant. Mais si c'est que le fait que les gens sont choqués et qu'ils y rejettent, ça ne me semble pas très grave, parce que quelques campagnes qu'on fasse, de toute façon, il y a des gens qui refuseront de l'entendre. Donc bon, ben là, c'est dommage qu'il faut y discuter plus spécifiquement, mais...
C'est important, je pense.
Oui, mais parce qu'on peut faire d'autres campagnes aussi, enfin... Et puis par ailleurs, c'est quand même plein de gens, je pense, plus dans la communauté juive que dans le reste, qui ont fait des liens clairs entre... Il y a Adorno aussi, par exemple, qui en parle. Et ça peut être aussi une façon de ressortir ça, quoi. Enfin, c'est... Ça présente aussi un intérêt, je ne sais pas comment dire, moi, historique ou culturel, par rapport à l'identité de la communauté juive. Mais bon, je ne sais pas si c'est un argument très valable. Mais...
Je ne sais plus quoi penser.
Moi, je voulais juste dire que, en fait, c'est pas hyper évident, hein, la comparaison avec la communauté juive. C'est-à-dire que quand on voit la vidéo de Pisa, c'est vrai qu'il y a le terme holocauste, mais beaucoup de massacres, on les baptise aussi de holocauste. Quoi. Donc je vois pas pourquoi les juifs se sentiraient finalement au plus agressés, même si c'est ok, une valeur sûre, ça y est.
C'est les imageries.
Ouais, d'accord.
Il y a même un petit accent polonais dans le...
Ouais.
C'est vrai,
puis la facture de l'image...
Bah, nous, on n'est pas obligé de faire comme ça. On peut très bien... le faire de manière un peu plus diffuse, comme ça les juifs ne seraient pas cités directement et n'importe quel massacre, en plus ce sera un petit peu plus entre guillemets universalisant, parce que beaucoup plus de gens s'y retrouveraient. D'ailleurs, je trouve que le massacre juif n'est pas si sensible que ça par rapport à d'autres trucs, hein. Franchement, si tu milites et que tu fais la comparaison avec les juifs, tu auras beaucoup, mais vraiment beaucoup moins de problèmes que si tu dis par exemple je sais pas ce que je disais tout à l'heure, la brutalité qu'on exerce sur les animaux, c'est comparable à la brutalité qui s'est exercée sur les Rwandais. Quoi. Là, on traite carrément de raciste, voire t'as des problèmes. Quoi. Je veux dire, voilà, c'est inscrit dans l'histoire, mais c'est, je pense pas que ce soit si. Ça fait partie du référentiel historique, voilà. Bon. Je pense pas que ce soit si choquant que ça, finalement.
Oui, moi je crois que la société, elle fonctionne, qu'on le veuille ou non, sur des modèles et des représentations, et que ces modèles et ces représentations ne vont pas être gommés comme ça, parce que nous, on pense que certaines choses sont justes. Donc, je pense que un des biais par lequel on pourrait aborder le problème, c'est qu'on parlait tout à l'heure sur s'interroger sur son propre comportement. C'est-à-dire que l'Holocauste, on en est tous responsables, que ce soit qu'on soit juif ou pas juif, on a participé à cet Holocauste. De même qu'on a participé à l'Holocauste des animaux. Je pense que si on aborde cette propagande sous ce biais-là, c'est-à-dire montrer que tout le monde a participé, mais que par ailleurs, on peut aussi changer le comportement des animaux, d'accord, mais aussi des humains, je crois qu'à ce moment-là, on peut aussi montrer aux gens qu'il y a quelque chose de possible autrement, quoi.
Ah, je voulais réagir par rapport à. Bon, mais je passe mon.
Il n'y a pas d'autres, donc. Bon, mais si personne ne parle, moi je voudrais dire que je trouve que la campagne est très bien telle qu'elle est. Moi je n'ai aucune envie de l'adoucir, de la changer, de l'adapter à la France ou quoi que ce soit. Je trouve qu'il faut la garder vraiment telle qu'elle, et moi j'aimerais bien, enfin, je ne sais pas si c'est le lieu pour en parler, mais j'avais pensé proposer, puisqu'à la Veggie Pride il y a des stands différents, j'avais pensé qu'on pourrait faire un stand où il y aurait ça.
Mais peut-être la chose qui pourrait nuire à la communauté juive, on va dire, si vraiment on doit trouver quelque chose, c'est le fait qu'il y ait cette comparaison qui soit la seule faisable possible. C'est-à-dire que quand on veut comparer un truc horrible, c'est qu'on prend toujours les juifs comme si le reste ne comptait pas. C'est pour ça que je disais que c'est bien qu'il y ait un truc plus universalisant. Il y a un camp, on va à un camp, point. Pas à peine de mettre un petit accent polonais ou ce que tu veux, parce qu'il y a plein de gens qui se sentent un peu zappés, un peu gommés, quoi. Je veux dire, il y a plein de gens qui ont souffert aussi. Ils ne sont pas allés dans les camps, mais ils ont eu des gens dans leur pays qui sont morts dans des massacres. Et largement comparables. Donc c'est pour ça que, je veux dire, c'est peut-être porteur et tout, mais si vraiment vous voulez absolument chercher quelque chose qui nuira à côté juif, ce sera de ce côté-là, parce que ce sera encore les juifs qui vont supporter ce poids, quoi. Le poids du monopole de la souffrance et du
l'Holocauste. L'année prochaine, c'est le 10e anniversaire du génocide au Rwanda.
Puis il y a les Tchétchènes aussi, actuellement. Moi, j'ai lu des choses sur
les. Moi, je pense que de toute façon, quelle que soit la comparaison qu'on fasse, à partir du moment où on compare des humains et des animaux, on va se faire taper dessus. Donc, à mon avis, autant prendre l'Holocauste, parce que c'est justement ce que disait David, l'imagerie. Enfin, une image très forte, quoi. Donc autant prendre la plus forte, vu que de toute façon, on va se faire taper dessus, quoi. Ou autant y aller carrément. Enfin, on commence à dire, on va prendre peut-être un peu moins, peut-être un peu plus universel. Mais de toute façon, à partir du moment où on va comparer des humains à des animaux, on va se faire lyncher. Donc autant y aller carrément.
Non, moi, je trouve que c'est moins fort, si c'est sur les juifs. Parce qu'il y a moins de gens qui vont se sentir concernés.
Ouais, mais justement, ils ne se sentiront pas concernés, donc du coup, ils vont pouvoir aussi.
C'est leur problème. Si les juifs, ils veulent être comparés aux animaux, tant pis pour eux. Par contre, si c'est universel, quand chacun se sentira agressé de
personne.
Moi, je suis assez d'accord avec Hugues que c'est bien de prendre l'Holocauste un peu de façon assez spécifique. Je pense que les gens, si on compare avec le Rwanda, ils se sentent moins concernés d'une certaine façon. Ils se sentent l'Holocauste, ça a ce côté spécifique de point de culpabilité. Et je pense que c'est bien de jouer là-dessus, parce que je pense aussi que les gens se sentent une culpabilité par rapport à ce qu'on fait aux animaux. Alors qu'ils ne se sentent pas beaucoup une culpabilité par rapport au Rwanda, ou moins peut-être. Mais d'un autre côté, je pense que la communauté juive, un des trucs qu'elle craint beaucoup, c'est parce que la comparaison entre les différents trucs et l'Holocauste, elle se fait, enfin ils ont l'impression qu'on fait ça avec n'importe quoi, qu'on fait ça avec Jenin, qu'on fait ça avec bon. Mais je pense que il faut mettre en relief que les animaux c'est un caractère assez spécifique, c'est-à-dire que les animaux c'est pas n'importe quel massacre, c'est pas un massacre de plus qu'on compare à l'Holocauste. Moi, je sais pas de quelle façon on peut le faire passer, mais enfin moi, je pense que c'est peut-être nécessaire de le faire passer que les. Enfin moi, c'est ce que je pense, c'est que notre civilisation, elle a eu historiquement, notre civilisation européenne a eu historiquement deux haines majeures qui sont les juifs et les animaux. Quoi. Je veux dire pour des raisons, c'est peut-être difficile à intégrer dans cette campagne. C'est pas un élément qui est dans la campagne de Pétain, mais je veux dire que les animaux par rapport aux juifs, il y a une relation assez particulière qu'on fait entre ces deux groupes.
Et les Noirs qui ont été en esclavage, ils étaient aussi considérés comme des animaux. Hein.
Oui, bien sûr, mais...
c'était une valeur marchande comme les animaux, ils étaient aussi très proches. Hein.
Oui,
et d'ailleurs, moi, une encyclopédie du 19e siècle qui commençait à dire quand les Européens sont arrivés en... dans les pays africains, ils ont admiré les femmes noires qui étaient très très belles, et puis tout d'un coup, quand ils ont vu qu'ils pouvaient les marchander, ils les ont traitées de noms, et ils disaient que les gens vers les noirs de la côte ouest, là, ils n'avaient pas de langage, ils parlaient comme les oiseaux. Donc,
non, mais c'est vrai que toutes les.
Donc, ceux-là, ils en ont pris plein les.
Chaque fois qu'on a voulu maltraiter des populations, on les a comparées aux animaux, mais il n'empêche que ça, c'est pas un truc qui a duré 2000 ans, quoi. C'est pas un truc qui a. Non, mais ce racisme, cette attitude envers les Noirs, et avec plus un côté utilitaire à un certain moment. Enfin bon, en tout cas, je pense que ça peut être utile d'utiliser cette comparaison. Maintenant, je pense qu'il y a un danger pour la communauté juive aussi. C'est que comme il y a eu une grosse hostilité envers les juifs par rapport à ce qui se passe en Israël et en Palestine depuis quelques années, et que cette hostilité elle est particulièrement marquée dans quelques pays comme la France, et je pense qu'en France, il y a pas mal de gens qui sont prêts à faire le raisonnement inverse, c'est-à-dire à la limite à légitimiser l'Holocauste et ce qu'a fait Hitler, plutôt que de renoncer à leur propre steak, quoi. C'est-à-dire que mon beefsteak, mon beefsteak j'y tiens, l'Holocauste, c'était peut-être comme mon beefsteak, mais finalement, l'Holocauste, est-ce que c'était pas si injustifié que ça, et se mettre à... Et c'est quelque chose qui, je pense, est matériellement tout à fait possible.
Parce que les Juifs font la même chose en Israël, donc quelque part, ils ont
des... Voilà. Enfin, le même genre de raisonnement, l'envie de régler ses comptes avec l'Holocauste, de finir... enfin, on a plein d'arguments pour dire que l'Holocauste, finalement, c'était à moitié justifié, que les Juifs l'ont bien cherché, etc. Donc ces trucs-là risquent de ressortir à cette occasion-là. Mais je pense que c'est bien d'en tenir compte dans la campagne et d'arriver à trouver les moyens que le message y soit... nous utilisons l'Holocauste parce que nous voulons justement que les gens se souviennent à quel point c'était une horreur, et ces images de la campagne, par exemple la vidéo de PETA, elles remettent en mémoire de ce que c'était une horreur, quoi. C'est ce transport d'animaux, et en même temps en disant on le fait aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui aux animaux.
Je vais lever la main.
Oui, mais vraiment, je trouve que la campagne de PETA est très bien faite, très, très pertinente. Bon, les images, le fait que c'est fait, c'est choquant, hein, ça interpelle bien. Alors c'est vrai qu'en France, il y a effectivement la question de la prendre en compte, et je crois qu'une façon de prendre en compte, ce serait de faire avec le PETA aux États-Unis. Il y a un piquet avec des personnalités juives importantes qui existent en France, quoi, qui pourraient être auteurs, soutenir cette campagne, quoi, de façon militante.
Par rapport à ce que tu viens de dire juste là,
question animale, quoi.
Ouais, c'est que impliquer, je sais pas, mais en tout cas contacter, et je pense notamment à Alain Finkielko qui est assez sensible à la question animale, ça vaudrait le coup de lui parler de cette campagne, savoir ce qu'il en pense.
Voilà.
ça m'intéresserait parce que j'adore ce type et j'aimerais bien savoir ce qu'il en pense lui. Quoi.
Il peut y avoir, je pense, des personnes, des personnalités qui sont un moteur, qui s'impliquent là-dedans. Donc, c'est vrai qu'en France, la question de l'Holocauste et la question de vie est quand même importante. On a vu assez récemment avec l'affaire Papon, tout ça, bon, je veux dire, ça parle bien quand même à la population. Quoi. Donc je pense que c'est intéressant. Quoi. Mais ça peut éveiller beaucoup de choses.
Ce que je voulais dire, c'est que, contrairement à ce que tu penses, David, il y a quand même cette communauté entre les animaux et les juifs, c'est le fait de l'industrialisation des juifs vers les camps de la mort, c'est l'industrialisation des animaux tous les jours. Quoi. Donc, c'est vrai que le Rwanda, tout ça, finalement, c'est horrible, mais il n'y a pas cette industrialisation qu'il y a eu pour les Juifs au moment de l'Holocauste. Quoi. C'est vraiment un point de comparaison essentiel entre les deux massacres.
Comme a dit Seb, on peut toujours trouver des différences. Et pourquoi celui-là, c'est un retour jusqu'à l'autre ?
À part pour les Cambodgiens, où ça, c'était vraiment la même chose, quand même. Les destructions des Cambodgiens, ça a été dans les camps, ça a été.
Non, mais là
ça je veux dire, industrialisé, ouais. Réellement.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que les Juifs, comme les animaux, ont été embarqués, emmenés dans des trains, dans des camps, ont vécu comme les animaux dans les camps, sont morts à l'abattoir. Je veux dire, il y a vraiment cette communauté de destin à cette période.
Je te dis, pour les Cambodgiens, ils ont fait exactement la même chose.
Ils ont été emmenés dans des trains, assoiffés.
Pas dans des trains, mais à pied, et puis, avec le fusil dans le dos, je veux dire, c'est pas mieux.
Je n'ai pas l'horreur du massacre cambodgien, l'horreur de tous les massacres, mais je veux dire. Oui, mais pour moi, ça. C'est le même fonctionnement, la même infrastructure. Comment on dit pas infrastructure, mais. Pas technostructure. Logistique, c'est la même logistique, l'abattage des juifs et des animaux, quoi. C'est cette similitude qui me. Et puis je voulais dire autre chose. Et
puis ça me. Alors on reviendra. Pascal, je passe mon tour. Alors David.
Eh bien, je pense que c'est cet élément d'historicité de 2000 ans d'antisémitisme, c'est quelque chose qui n'est pas présent. Beaucoup dans la campagne de bêta, je trouve que ça serait bien d'en parler, de le rajouter. Parce qu'aussi, quand on se focalise sur l'Holocauste, je trouve que l'Holocauste, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, d'une certaine façon. Mm-hmm. Que c'est vrai que l'Holocauste, c'était censé être la solution finale, mais c'est la solution finale au problème que le christianisme se posait par rapport aux juifs depuis 2000 ans. Et l'attitude officielle du christianisme du pape par rapport aux juifs pendant 2000 ans, ça n'a pas été qu'il faut les exterminer, c'était au contraire, il ne faut pas les exterminer, il faut les garder, les juifs, il faut les garder, il faut les faire souffrir, mais il faut les garder, il faut qu'ils restent vivants, humiliés, mais porteurs comme témoins de l'Ancien Testament. Comme témoin de la Bible, c'est ça la fonction que Dieu a voulu pour eux, une fonction de témoin aussi par leur humiliation de ce qui arrive à des gens qui n'acceptent pas le Christ, etc. C'est-à-dire qu'ils avaient une fonction idéologique, et ça je trouve que d'une certaine façon c'est assez comparable à ce qu'on fait aux animaux, quoi. C'est-à-dire que les juifs on les massacrait en des grands pogroms, mais on n'exterminait pas jusqu'au dernier, on faisait pas la solution finale. Et je pense que le fait de remettre sur le tapis l'existence de cette histoire antisémite, ça peut être quelque chose qui, à mon avis, apporte un éclairage nouveau à l'Holocauste, parce que moi j'en ai un peu marre d'entendre parler de l'Holocauste comme si c'était une éruption volcanique d'un coup, qui n'a pas d'histoire, que non, le pape n'était pas au courant. Et que je pense que ça peut intéresser la communauté juive, s'ils arrivent à... Parce que bon, la communauté juive aussi n'a pas forcément a un côté très consensuel, ne parlons pas des choses qui fâchent, quoi. Alors que ça, c'est quelque chose qui fâche, mais je pense que ça peut en intéresser pas mal, quoi.
C'est-à-dire que moi, je ne tiens pas à porter une culpabilité quelque part. Moi, je suis désolée parce que ça me choque cette continuité de l'Église chrétienne contre les Juifs, etc. De toute façon, moi, je peux me déculpabiliser par le fait que, en effet, ma famille vient d'un petit village du Lot où il y a, c'est le seul village où il y a une synagogue parce qu'on est sans doute des Juifs de l'Inquisition, etc. Mais moi, à travers les âges, j'étais chrétienne aussi. Mon père avait acheté et a fait passer des Juifs pendant toute la guerre, etc. Il avait été appelé à la Wehrmacht et lui il était baptisé, donc je trouve que toujours mettre en opposition c'est juif, c'est chrétien, etc. Alors qu'à la limite on est tous juifs et chrétiens, etc. Moi ça me choque parce que j'ai beaucoup de respect pour tous les juifs, j'ai beaucoup de respect pour tous les chrétiens qui agissent bien, qui font la cause des animaux, et toujours faire des génériques des espèces, l'espèce juive, l'espèce chrétienne, l'espèce ceci, ça me choque parce que je suis aussi antispéciste à tout niveau, et aussi dans ma famille on a 9 générations parisiennes, mais moi j'ai épousé un Africain, ma soeur a épousé un Japonais, la troisième un Indien, et on n'a jamais pensé, tiens, il est Indien, il est Africain. On a vu leur personnalité, pointe à la ligne, et moi, dès qu'on met des marques comme ça sur les gens, ça me... En plus, ça me met très mal à l'aise, parce que ça me choque. Je suis très très, très choquée. J'ai des amis juifs, j'ai des amis chrétiens, j'ai des amis des animaux, beaucoup, et... je trouve que le mal, c'est vrai que s'il y avait, on parlait avec une amie, on disait nous on est racistes parce qu'il y a les gens ouverts, les gens fermés, on n'aime pas les gens fermés. Il y a les criminels et il y a les non-criminels, il y a les gens qui ont de la cruauté, qui sont des lâches comme le dit Montaigne, et ceux qui n'ont pas de cruauté parce qu'ils défendent leurs opinions, pointe à la ligne. Mais faire des familles comme ça, c'est à nouveau retourner dans une sorte de racisme, de spécisme, de tout ce qu'on fait. Allez, c'est bien gentil, moi mais il y a quand même un peu violemment ce que je ressens, je suis désolée.
Il y a, sur le rapport entre le catholicisme et le génocide, ça me semble un peu compliqué, parce que c'est pas nécessairement que les Juifs. Par exemple, le génocide au Rwanda, le Vatican a joué un rôle au moins aussi primordial que la France en génocide. Et c'est clair qu'en même temps, le génocide, il a pris l'idéologie antisémite en l'appliquant aux Tutsis. C'est vraiment clairement une transposition. Il y avait Kayi Banda qui était... le chef de la révolution Hutu, qui était en fait le secrétaire de Monseigneur, de l'évêque de Rwanda, qui est un admirateur de Hitler. Mais à la fois, il y a une transcription du génocide de l'Holocauste, du génocide des Juifs là-bas, et en même temps, c'est pas le génocide des Juifs, c'est un autre génocide, et qui s'est fait aussi avec l'appui du Vatican. Mais du coup, je ne sais pas ce que ça veut dire non plus, si vraiment y a une sorte de lien comme ça très fort entre catholicisme et génocide, ou si c'est simplement parce que le Vatican il a des intérêts et il est prêt à, dans tous les cas, à aller jusqu'au bout pour les maintenir, quoi. C'est peut-être tout bêtement aussi trivial que ça. Hein.
En fait, ce que je veux dire, c'est que ce que pense Dominique Caro, beaucoup de gens penseront, et beaucoup de gens penseront ce que moi j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'eux-mêmes sont éclipsés, on va dire, par ça. Et nous, notre but, c'est pas de militer pour l'Holocauste juif, on est là pour militer pour les animaux. Donc, le but, c'est de trouver le truc qui crée le moins de confusion, qui nécessite le moins d'explications. Enfin, c'est une pub, hein, on n'est pas là pour faire. Tu vas pas faire une pub enfin, avec explication, le Vatican avec ça, genre, sinon ça va coûter bonbon. C'est déjà 5 minutes. Donc, je sais. Le lier au truc juif, moi je trouve ça intéressant, mais je suis pas certain que ce sera en France super porteur. Quoi. Et ça pourrait faire parler un peu, mais je pense pas que les gens se retrouveront vraiment là-dedans. Ça accentuera plus la question. On se sera plus axé sur la question des juifs que sur la question des animaux.
Perdu. Ah oui, tu vois, ta réaction me fait penser à la réaction de Clément hier. C'est un fait historique, sociologique, culturel, cet antisémitisme chrétien vis-à-vis des juifs. Donc, ce n'est pas vous dire vous êtes des méchants, c'est un fait, c'est comme ça. C'est, donc, on ne peut pas.
Alors, mon père chrétien qui a risqué sa vie pour les juifs, tu l'attaques.
Mais je n'attaque pas, je dis. Il y a eu 2000 ans d'antisémitisme chrétien, c'est un fait historique, sociologique, culturel. Alors, c'est comme ça, mais pas tout. Oh, c'est un fait, mais peut-être. Bien sûr que tous les chrétiens n'ont pas été. Bien sûr qu'il y a eu des chrétiens résistants, des chrétiens qui ont eu des juifs, mais quelle infime partie par rapport à tout ce qui s'est passé pas en arrière. Je veux dire, je ne t'attaque pas quand je dis ça, c'est un fait historique. C'est comme, je dirais, il y a une histoire russe. Je ne t'attaque pas, c'est un fait historique.
Les êtres humains et les animaux.
Voilà, exactement.
Mais d'un autre côté, moi, ce que je pense beaucoup, c'est que quand on dit l'Église catholique, etc., moi, ce que je n'aime pas, en règle générale, c'est les institutions. J'avais lu un livre très intéressant là-dessus qui disait qu'au début, les gens ont des idées qui peuvent être des idées généreuses, mais dès que ces idées deviennent institutionnelles, il y a une pyramide qui se fait. D'abord, moi, je dis comme René Passet, la hiérarchie, c'est quelque chose d'obscène. Hein, c'est un économiste, le président de l'ATTAC, etc. Et dès qu'il y a des... Oui, d'ailleurs, il a été président, mais il n'a plus voulu l'être hein, parce que ce n'était pas dans son style. Et donc, il prend la défense des animaux aussi, d'ailleurs, par ailleurs. Disons que dès que quelque chose se met en institution, il y a une pyramide, et le haut de la pyramide veut garder le pouvoir, et il est prêt à tout, mais il n'est plus le représentant de l'idée qui était au départ. Moi, c'est mon avis. Alors, que les papes ont fait ce qu'ils ont fait, il faut attaquer les papes, mais il ne faut pas attaquer peut-être les gens qui ont, eux, ont une autre peut-être pensée dans leur tête, et qui ne suivent. Les moutons, il faut les attaquer aussi, c'est-à-dire ceux qui suivent le pape. Et puis, il y a ceux qui réagissent différemment, tout en gardant des idées qui peuvent être des idées qui viennent... voilà, moi, je ne sais pas. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui n'est pas vrai?
C'est un autre angle. Non, historiquement, c'est tout simplement pas vrai. Je veux dire que l'antisémitisme n'était pas le fait des papes. Je veux dire, les papes étaient plutôt des freins. L'Italie, c'est le pays...
Mais on n'était pas en guerre contre l'Allemagne, moi, je me rappelle.
Non, mais attends, je parle historiquement, depuis des siècles.
Bon, moi, je sais, je suis une fille de l'Inquisition.
Les pogroms, c'était pas les autorités religieuses qui les lançaient, quoi, c'était le peuple. Et c'était dans l'esprit du peuple. Et je pense qu'il faut vraiment clairement que tu vois que c'est pas des attaques personnelles. Ouais. Je veux dire, toi, t'étais pas né, je pense, ou t'étais, je sais pas, mais je veux dire, à l'époque de l'Holocauste, c'est clair que t'as aucune responsabilité personnelle dans l'Holocauste, ni dans les 2000 ans d'antisémitisme. Simplement, c'est de voir que dans notre culture, il y a des structures de raisonnement qui nous portent à être antisémites. Et que je pense que ces structures sont liées à la religion chrétienne, parce que c'est la religion dominante en Europe depuis 2000 ans, qu'on retrouve ça dans la Bible. Je veux dire que tous les enfin bon, on va pas faire des discussions là-dessus, mais je veux dire, c'est clair que c'est un pays historique, et comme disait Seb, c'est par rapport aux animaux, c'est pareil. Je veux dire que on est né dans une culture qui nous a fait mépriser les animaux. Je veux dire, moi, ça me fait, je suis pas content d'avoir bouffé les animaux depuis.
Oui, c'est peut-être ça que je ne comprends pas, parce que moi, je suis incapable d'être antisémite, alors je ne comprends pas pourquoi tu sais, peut-être. Je suis incapable d'être
antisémite. Il est moins clair, et peut-être qu'on garde 5 minutes pour finir, parce qu'il y a des gens qui ont fait la cuisine, donc ils vont...
D'accord, merci. Tiens, le bouffer est prêt.
Ah, c'était ça.
Message important. Il y avait quand même des gens qui voulaient s'exprimer.
Oui, oui, on finit les tours de parole.
Voilà, donc il y a Hugues.
Et oui, moi c'était pour revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, je ne suis pas vraiment persuadé que ce soit bien d'utiliser que le costume. Et je crois qu'en fait, le fait d'utiliser des images de l'Holocauste, mais en même temps des images d'autres massacres, ça permet d'avoir le débat au niveau de l'Holocauste, de toute façon il aura lieu, et en même temps de pouvoir élargir, par exemple de mettre des images du Rwanda ou des choses comme ça. Parce que c'est... Moi j'ai l'impression qu'il n'y a que les juifs qui se sont fait massacrer quoi, dans l'histoire, et ça c'est un peu chiant aussi quoi. Il y a d'autres massacres qui existent, il n'y a pas que les juifs qui ont souffert, et utiliser toujours cette même image, c'est aussi gênant je pense.
Y compris pour les juifs.
Y compris pour les juifs, ouais.
Donc je voudrais dire que l'Holocauste c'est aussi le Rwanda, c'est aussi les Tchétchènes, c'est aussi les...
Non, mais...
Et le risque c'est ce que tu disais David, c'est okay. Que le débat il aura plus lieu sur le fait qu'on ait utilisé des juifs que sur le fait que ce soit des animaux. En fait, non, on va, ça va complètement
dévier. On peut éviter ça. Hein.
On peut l'éviter en, en mettant d'autres images, même si on met une majorité d'images qui représentent le massacre juif. On peut aussi, à la fin, ou je sais pas, mettre, mais aussi, il y en a d'autres, il y a le Rwanda, mettre des images du Rwanda, y a, et pas s'axer uniquement là-dessus. Quoi.
Je pense que c'est...
En deux secondes, alors, tu vois des images. Enfin, moi, j'avais pas vu le côté juif. Hein. J'ai vu un camp et je m'attendais. Enfin, on sait pas que c'est des juifs, quoi. Je veux dire, si tu mets un accent polonais et qu'on voit une petite croix gammée qui se balade, bon, là, tu sais. Quoi. Mais je veux dire, un camp, c'est un camp, quoi. Ouais. Des camps, il y en a eu partout, il y en a encore actuellement. Quoi, quand on voit. Quoi, non, c'est simple, il n'y a pas à se prendre la tête.
C'est ce que je disais, on est prisonnier des représentations qui existent. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, la preuve, c'est que tu fais. Non, mais justement, mais c'est ça intéressant. On a vu la vidéo avec, mettons, un camp. Ici, qui c'est qui ne pense pas aux juifs, justement, quand il voit un camp Non, mais spontanément, je veux dire. C'est-à-dire, est-ce que tu rejettes déjà l'idée que c'était un camp juif?
C'est où on explique tout le monde.
On savait que le débat c'était sur les abattoirs et Auschwitz aussi.
Je veux dire, il y a des gens. La France est multiculturelle aussi. Hein. Il y a pas que des gens. Il y a des gens qui viennent de certains pays où il y a eu des massacres. Et eux, quand ils vont ça, ils penseront à la famille.
Et nous, on est dans une civilisation judéo-chrétienne et on est forcé d'en tenir compte.
Mais quand même, je suis désolée, quand je veux parler d'un élevage industriel, je dis toujours que c'est un camp de concentration. Tu vois?
Mais le problème, c'est pas que tu dises que c'est un camp de concentration, c'est que les gens pensent camp de concentration juif. Ouais. Alors qu'il y en a eu dans d'autres.
Oui, à une échelle aussi industrielle au XXe siècle.
Oui, non, d'accord.
C'est-à-dire qu'il faut d'abord expliquer que nous, on respecte les animaux et que nous sommes de la cause animale, donc que pour nous, c'est pas un manque de respect, c'est au contraire quelque chose de très fort. Il faut peut-être pas le dire d'un seul coup, mais moi, je le dis comme toi d'un seul coup, j'ai failli. Il faut peut-être expliquer avant que pour nous, la pire des souffrances, c'est la souffrance animale, et que si on fait cette comparaison, c'est parce
que... C'est pas la pire, c'est la souffrance qui... La souffrance
en général, oui. Non, mais celle qui est la plus répandue au point de vue du nombre. Et puis aussi du fait que nous, on rejette la souffrance humaine, enfin les humains n'acceptent pas la souffrance humaine, mais acceptent très bien la souffrance animale.
C'est à Jean-Pierre.
Est-ce que je voulais préciser, afin de ne pas, enfin, d'éviter le danger de l'amalgame qui nous mène, qui peut nous mener à, en fait, à des prises d'opposition parfois qui frisent le fanatisme, il ne faut pas oublier aussi, puisqu'on parle d'Holocauste et de persécution à travers l'histoire, des chrétiens ou des soi-disant chrétiens qui ont attaqué d'autres chrétiens qui se reliaient à ce qu'on peut appeler le courant du christianisme des origines. Je veux parler des manichéens, des gnostiques, des bogomiles, des cathares en particulier. Et pour bien faire la distinction de l'institution ecclésiastique qui, au cours du concile de Constantinople, au niveau historique, est devenue une religion d'État, donc un enseignement originel qui a été complètement déformé, en vue d'asservir les masses, de les dominer par la terreur, en créant des dogmes terribles comme celui de la damnation éternelle, alors que si on se tient au texte originel, par exemple du serment sur la montagne, dans l'enseignement originel de Jésus, à aucun moment on parle de hiérarchie, de dogme, de rituel, ni quoi que ce soit, c'est vraiment la liberté, en route vers la liberté intérieure et la révolution intérieure. Et d'ailleurs, la communauté des Nazaréens était la première personne qui... Donc on ne peut pas aussi, afin d'éviter de créer cet amalgame, bien avoir en mémoire aussi que d'autres chrétiens, jusqu'à aujourd'hui, sont attaqués par les chrétiens officiels, dirigés directement par le Vatican.
C'est-à-dire dès qu'on n'est pas 100% de...
Allez, à la bouffe.
Et à la bouffe, je dis qu'il n'y a pas les choses essentielles.
En fait, j'ai une petite caméra et j'aimerais bien filmer. Et je veux savoir si ça dérange les gens que je filme, et notamment pendant le débat ou les repas. Non, mais pas, n'hésitez pas à me dire si
j'ai pas quoi faire que mon
je te laisse faire. Non, parce qu'il ouais, a l'air éteint.
Mais
en fait, il est sur pause. Non.
J'ai laissé, et je crois qu'il s'arrête tout seul, en fait. Voilà, ça fait comme hier.
Mais ça doit pas être arrêté, en fait.
Et je pense que c'est une espèce de veille, mais j'espère qu'il continue à travailler parce que tu vois, là, il y a un petit point rouge.
Oui.
Un petit point rouge, c'est bon. Alors, stop, c'est là, mais qu'en faire ?
Il
faudra voir le mode d'emploi, voir s'il y a une histoire de veille ou je ne sais pas. Peut-être que si on appuie longtemps sur ça. Là, c'est pause, de toute façon. Et là, c'est stop, je crois.